Bonjour, je suis heureux d'être ici ce matin et nous sommes contents, nous apprécions cette grande communion autour de ces vieux cantiques de la foi. Nous aimons cela, n'est-ce pas? Le refrain « Amen », c'est ce qu'il est, l'Amen. Voyez, c'est lui qui a le dernier mot. J'étais assis là-bas et je parlais à mon vieil ami, Frère Brown, pendant les chants. Et il a dit, « Frère Branham, avant hier, je n'avais jamais compris de quoi vous parliez. » Il a dit, « Si les gens pouvaient seulement recevoir ce dont vous parlez, » a-t-il dit, « tout obstacle serait balayé du chemin. » C'est tout à fait exact. C'est vrai, c'est tout à fait exact. Si vous pouviez simplement saisir cela, comprendre cela, voyez, je parlais à mon ami, Ernie Fendler. Je pense que certains de vous qui êtes en ligne se souviennent d'Ernie, de comment il était converti, comment il était conduit au Seigneur. Il ne parle pas bien l'anglais. Autrement, j'aurais aimé qu'il vienne dire un mot. Il mélange ses V et ses W. Il me demandait si je me souvenais de cette fois-là. C'était à Shawano, où il vit. Un homme est tombé mort là, dans la réunion. Il s'est écroulé dans son siège. Mort, un luthérien. Nous avons demandé à tout le monde de rester tranquille. Nous avons prononcé la parole du Seigneur sur lui, il est revenu à la vie et est tout de suite retourné au travail. Oui, ils n'ont jamais oublié ça. Ils veulent que nous retournions. Et j'ai cru comprendre qu'en France, ce matin, il y a plus de 2000 Français qui font un jeûne de plusieurs jours pour que nous venions apporter le message pour la France, en France, à toute la nation protestante, la partie protestante de la France. Et nous sommes donc... Ça commence tout juste à fleurir maintenant. Ça ne fait que commencer. La balle se retire pour que le blé puisse rester là maintenant. Voyez? Alors, soyez toujours respectueux. Continuez à prier. Voyez? Souvenez-vous, ceux qui s'attendent au Seigneur renouvelleront leur force. Maintenant, il y a... je prends de l'âge. Et j'ai pensé, vais-je, y aura-t-il un autre réveil? En verrai-je un autre? Et souvenez-vous, de l'ouest viendra un cavalier sur un cheval blanc. Nous parcourrons encore ce sentier. C'est vrai, aussitôt que nous serons prêts. C'est une promesse, voyez-vous. Maintenant, je veux dire à frère Léo, je parlais de frère Wood hier soir, de son frère qui était ici. Frère Léo, si toi et le petit groupe qui sont en ligne ce matin, sœur Mercier, ton père est ici. Je l'ai vu hier soir. Il est quelque part dans le bâtiment. Il a l'air bien et en santé. Le matin où il était guéri au tabernacle, il y avait deux cas de cancer avancé. Ils étaient en train de mourir. Et tous les deux ont été guéris. Et son père, un homme âgé qui a eu une crise cardiaque, a été guéri pour la gloire de Dieu. Et il est dans la réunion, ici quelque part. Je ne peux pas le voir dans la foule maintenant. Mais il était ici hier soir. Je vous salue tous à travers le pays, ici dans cet endroit merveilleux, au Life Tabernacle, à Shreveport. C'est bondé de gens pour l'école du dimanche. Vous savez, si je vivais à Shreveport, pas pour dire du mal de qui que ce soit, ce serait cet endroit où je viendrais à l'église, ici au Life Tabernacle. Ce n'est pas une dénomination. Le Life Tabernacle est aujourd'hui est un tabernacle interdénominationnel. Ils sont sortis de la dénomination parce qu'ils m'ont accepté, moi et ce message que je prêche. Frère Jack Moore, mon frère et mon ami, il était exclu de la dénomination parce qu'il s'est associé avec moi. Et donc, je pense qu'il mérite de l'estime. C'est vrai, que Dieu le bénisse. Gardez-le dans vos prières et croyez avec lui. Et maintenant, sœur Moore, je ne la vois nulle part. Elle, oui, ici au fond, elle a l'air d'une petite fille, assise là ce matin, avec ses beaux vêtements, tout neufs. Ça ressemble à une tenue de Pâques. Et on dirait, frère Jack lui-même ne l'a même pas reconnue. Bon, là, sœur Moore, Anna Jean et Don nous manquent certainement. Et tout cela, je suis heureux de voir frère Nolan, l'un des collaborateurs ici. Et frère Ernie, je lui ai demandé hier s'il allait chanter ce chant. Amen. Je l'ai sur disque et je l'ai usé à force de l'écouter. L'Amen. Je pense qu'il a une voix pour ça. Elle est meilleure que toutes les autres. Et la petite Judy, je l'ai remarqué. Les deux, ils ont l'air d'être frères et sœurs, n'est-ce pas? Ils sont mariés femmes. Regardez chacun d'eux, voyez, eh bien, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, voyez, ils sont vraiment un charmant petit couple. C'est, vous savez, C'est Frère Palmer qui vient de gravir l'escalier d'or. C'est sa fille et son beau-fils. Et elle est un très bon exemple qu'il a bien élevé ses enfants. Et il en a d'autres aussi qui ont aussi marié des ministres. Et ceux-ci sont des évangélistes dans le champ de travail et d'autres. Or, c'est merveilleux. Je n'ai pas vu Sœur Palmer. En fait, je ne sais pas si je la reconnaîtrais ou pas, si je la voyais. Elle est peut-être quelque part, bien sûr, dans la réunion, au fond en arrière. Que Dieu vous bénisse, Sœur Palmer. Mon cœur frémit chaque fois que j'y pense. Quelques minutes après que Frère Palmer venait de gravir l'escalier, j'ai reçu le message qu'il était parti. J'avais de la peine à le croire. Billy m'a appelé, et quelqu'un avait pu joindre, et il savait. Nous étions de si bons amis, et d'apprendre qu'il était parti, c'était vraiment un choc. Mais nous devons tous partir, peu importe qui nous sommes. Nous devons partir un par un. Mais il n'y a qu'une seule chose. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Ecclésiaste 12. Bon, je n'ai pas beaucoup de temps pour cette leçon d'école du dimanche. Et je suis enroué. Et frère Perry Green a fait une chose noble. Hier soir, il m'a entendu dire, « J'aurais aimé avoir mon petit postiche pour me protéger. » Il a appelé là-bas et a essayé de trouver quelqu'un qui pourrait me l'apporter par avion. J'ai dit, « C'est trop tard, je suis déjà enroué. » J'ai essayé pendant des années de trouver une solution. Puis que j'ai eu ça, ça a remédié au problème. Mais cette fois-ci, je l'ai oublié. Donc, je suis un peu enroué. Alors, soyez patient avec moi, si vous le voulez bien, pendant que je prêcherai. Maintenant, combien aiment l'école du dimanche? Oh là là, c'est bien, c'est une bonne chose d'y envoyer vos enfants. Non, permettez-moi de corriger ça. Une bonne chose d'y emmener vos enfants. C'est vrai, d'emmener vos enfants. Venez, vous aussi. Combien connaissent l'origine de notre école du dimanche? Où est-ce que cela a vu le jour? En Angleterre. Comment appelait-on cela au début? École pour défavoriser. C'est juste, c'était appelé l'école pour défavoriser. J'ai oublié le nom de l'homme maintenant qu'il a établi. Comment s'appelait-il? C'est vrai, c'est tout à fait exact. Et il sortait les petits garçons de la rue. Ils étaient miséreux et n'avaient nulle part où aller. Et ils étaient bien bas. Et il les a recueillis et a commencé à leur donner des leçons sur la Bible. Et c'est devenu l'un des plus grands ordres de l'Église, ou presque, aujourd'hui, l'école du dimanche. C'est bon d'y aller. Assurez-vous de venir, d'emmener vos enfants. Je pense que le tabernacle ici a des enseignants, des salles équipées, selon les âges et ainsi de suite. Et vous, les nouveaux convertis qui viennent d'accepter Christ, suivez fidèlement le message. Venez ici au Life Tabernacle et cela vous fera du bien. Maintenant, ce soir, nous allons avoir une ligne de prière à l'ancienne mode. Nous allons simplement prier pour les malades, comme nous le faisions avant avec frère Jack et frère Brown. Je me souviens d'avoir vu frère Brown essayait de distribuer les cartes de prière. Il était lui-même un ministre, et à cette époque, il faisait partie d'une organisation où les gens faisaient pression sur lui, vous savez. Je suis votre frère, nous sommes ensemble. Vous savez, vous devez m'aider à avoir une place là. Oh, il a vraiment eu des moments difficiles, mais il est resté aussi fidèle que possible. Frère Brown est un homme très bien, et alors, nous l'aimons. Et comme je nous vois tous, nous trois, nous avançons en âge, vers la fin. Ce sera une chose très triste si nous n'avions pas cette grande chose placée en nous, ce que nous savons être la vérité. Nous nous préparons à retourner un de ces jours, à retourner à notre jeunesse, pour ne jamais nos corps transformés, faits à sa ressemblance. Quand cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, il y en a une qui attend là-bas. Et la partie dont nous devons être reconnaissants, chers amis, c'est que le cher Seigneur Jésus, vous qui avez confiance que je vous dis la vérité, le cher Seigneur Jésus, un matin vers 8 heures, m'a laissé voir ce pays. Maintenant, ce n'était pas une vision. Eh bien, je ne veux pas dire ça. Quoi que c'était aussi réel que moi qui vous parle ici. Or, j'ai vu le visage de ces gens, mais je ne les reconnaissais pas. Ils étaient redevenus jeunes, et ils étaient tout aussi réels que je leur tenais les mains et tout. Tout aussi réels. Et ça m'a aidé, parce que j'avais toujours pensé ceci. Lorsqu'une personne mourait, son âme seule s'en allait. Mais alors, quand il m'a cité cela, que si cette tente où nous habitons sur la terre est
nous en avons déjà une autre, voyez. Et tout doit être par trois pour qu'il y ait une perfection, voyez. Et il y a un corps ici, puis le corps là-bas, qui est le corps céleste. Et ensuite, le corps glorifié dans la résurrection. Vous voyez, c'est rendu complet, voyez. C'est donc un... Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une idée, ce n'est pas un esprit. Il s'agit d'un homme et d'une femme, comme vous l'êtes, exactement. Et puis, il y a des années, j'ai vu les régions des perdus. J'étais là. Je vous le dis, mon ami, en tant que vieil homme, laissez-moi vous persuader de ceci, d'un bout à l'autre du pays ce matin. N'ayez jamais le désir de voir cet endroit. D'aucune façon, je ne pourrais, même si j'étais un artiste avec un pinceau, je ne pourrais pas peindre le tableau. En tant que ministre, je ne pourrais pas vous le décrire. Vous parlez de l'enfer comme d'un lieu qui brûle. C'est un million de fois pire que ça. Les horreurs qui s'y trouvent, et le ciel, ou cet endroit, peu importe où c'était, je ne sais pas comment l'appeler. Il a parlé de ce lieu comme étant les âmes sous l'autel. Mais quand c'est arrivé, je n'ai jamais... Il n'y a aucun moyen d'expliquer à quel point c'est glorieux. Il y a... Maintenant, vous devez simplement me croire sur parole. Je ne suis qu'un homme, voyez. Mais ces visions s'accomplissent toujours, comme je vous l'ai dit. Et vous savez que chacune d'elles s'est avérée juste. Et cela est également vrai. Quoi que vous fassiez, si vous manquez tout le reste, santé, force, votre vue, quoi que ce soit, ne manquez pas cela. Il n'y a rien qui lui soit comparable. C'est, il n'y a pas de mot dans la langue anglaise que je connaisse qui pourrait l'exprimer. Si vous disiez, parfait, c'est au-delà de ça, superbe, c'est au-delà de ça, sublime. Il n'y a pas de mot que je connaisse qui pourrait l'exprimer. Parce que c'était si... Et puis, d'y penser, ce n'est pas tout ce qu'il en est. J'ai pensé, moi, avoir peur d'arriver là. J'ai dit, mangez-vous? Il a dit, pas ici. Nous ne mangeons pas ici. Mais quand nous retournerons sur la terre, nous recevrons un corps dans lequel nous pourrons manger. Eh bien, je pouvais les toucher. Ils étaient comme ça, voyez. Et j'ai dit, eh bien, vous avez... Oh oui, ils ont un corps. Ce n'est pas un mythe, c'est un corps. Nous nous connaissons les uns les autres. Ils me connaissaient tous, m'étreignaient, des millions d'entre eux. Et j'ai dit, eh bien, je veux voir celui qui m'a amené ici. Il a dit, tu ne peux pas le voir maintenant, tu dois attendre. J'ai dit, pourquoi m'as-tu mis en haut ici? Il a dit, tu étais un conducteur dans la vie. Et j'ai dit, veux-tu dire qu'ils sont tous des Branham? Il a dit, non. Se sont et convertis à Christ. Voyez, j'ai regardé autour de moi, et alors, toutes les soirées difficiles et les épreuves ont disparu quand j'ai pu voir leur visage. Une jeune femme a accouru là, l'une des plus belles femmes, et elle a simplement jeté ses bras autour de moi et a dit, « Précieux frère !» Et quand elle est passée, bon, c'était une femme, donc, mais là, il n'y aura jamais de péché. Voyez, nos glandes sont changées là-bas. On n'élèvera plus d'enfants là-bas. Voyez, vous voyez, tous pareils. Ce qui fait la différence, c'est la sensation. C'est pour ça que je ne crois pas au fait d'aller sur une piste de danse. Aucun homme, devant Dieu, avec ma Bible devant moi, j'ai toujours mené une vie pure. Et il en était ainsi tout au long de ma vie, quand j'étais un petit garçon, et pendant que j'étais un jeune homme. Toute fille avec laquelle je suis sorti, je pourrais faire face au jugement avec elle, voyez. Mais il n'y a aucun homme, peu importe qui vous êtes, qui peut laisser une femme, telle que la femme est faite, se serrer contre lui. Si vous êtes un homme en bonne santé, il y a une sensation. Mais là-bas, il n'y en avait pas. Il n'y a pas de glande. On a tous la même glande, voyez. Simplement un amour pur et sans tache entre des sœurs et des frères. Plus que celui pour votre, même pour votre, étreindre votre propre petite fille. Voyez, votre propre fille, elle est quand même faite, elle est une femme, et vous êtes un homme. Vous voyez, ça pourrait créer quelque chose, mais là-bas, ça ne peut pas. Le péché est terminé, c'est fini, voyez, réel, simplement un amour réel et sain. Et j'ai regardé cette femme, il semble qu'elles étaient des millions là-bas, et elles avaient toutes les cheveux longs. Et portait de longs vêtements blancs. Et celui qui me parlait m'a dit, « Ne la reconnais-tu pas ?» J'ai dit, « Non. » Il a dit, « Elle avait plus de 90 ans quand tu l'as conduite à Christ. » grâce étonnante, qu'il est doux le son. Voyez, il n'y a aucun moyen d'expliquer ce que c'est. Acceptez simplement ma parole, si vous me croyez. Assurez-vous de faire brûler tous les ponts du monde derrière vous. Je crois que l'Église commence à entendre le message et qu'elle a commencé à comprendre. Mais, mes amis, écoutez, nous devons rester dans la présence du Fils. Nous devons mûrir. Notre foi n'est pas mûre. Intellectuellement, nous entendons le message que Dieu nous a donné et nous voyons les signes qu'il nous a présentés et dont il confirme là l'authenticité par la Bible. Mais, oh, combien l'Église a besoin de rester dans sa présence jusqu'à ce qu'elle s'attendrisse. Vous savez, et quelle est la douceur de l'esprit pour pouvoir s'en imprégner. Parfois, en apportant le message, on parle durement. On doit faire pénétrer les choses comme ça, parce que, pour qu'un clou tienne, il faut le river. Mais dès que l'Église aura saisi cela, les élus qui ont été appelés à sortir et qui se sont séparés, ils seront alors dans la présence de Dieu. Je sais que ce sera un peu comme les gens l'étaient là-bas, lorsqu'elle sera prise dans l'enlèvement. J'allais parler ce matin sur l'enlèvement, mais je n'ai pas assez de voix pour le faire. Alors, veuillez bien me supporter un peu, alors que je veux parler du sujet suivant. Le seul lieu d'adoration que Dieu a donné. Maintenant, c'est un texte très important. Alors, prions maintenant. Et partout dans le pays ce matin, où que vous soyez, courbez la tête quelques instants. Soyez vraiment sincères maintenant. Nous approchons la parole de Dieu, qui est Dieu sous forme de lettre. Grand auteur de ce livre, c'est une semence, nous enseigne-t-on, qu'un semeur a semé, ainsi dit l'auteur. Maintenant, nous sommes conscients qu'une semence va pousser si elle est dans la bonne sorte de terre. Alors, Père, si tu le veux bien ce matin, retire toutes les ronces et tous les chardons, l'incrédulité et les soupçons de notre cœur, pour que la parole de Dieu puisse croître librement, arrosée par l'Esprit dans notre cœur, afin que nous devenions le peuple de Dieu. Accorde-le, Père, voilà notre cœur, non seulement à nous qui avons reconnu ceci, mais qu'il y en ait d'autres partout dans le pays. Chaque personne dont le cœur brûle d'amour et de tendresse, ils essaieront de gagner le frère perdu, la sœur perdue. Accorde-le aujourd'hui, ô Dieu. Nous nous tournons entièrement vers toi, car tu es notre guide et notre Seigneur. Alors nous te prions de nous diriger dans ta parole aujourd'hui et que tu nous accordes tes bénédictions. Par ta grâce et en ton nom, nous le demandons. Amen. Maintenant, pour notre sujet, je veux lire dans le livre de Deutéronome, l'Ancien Testament, un cadre pour situer l'Écriture. J'ai quelques notes que j'ai prises rapidement après mon retour du petit déjeuner avec Frère Veil. Je n'ai jamais eu l'occasion de remercier l'homme à cet hôtel, à ce restaurant l'autre soir, qui a payé pour notre souper. Ma femme, moi et ma petite fille étions là, et quand je suis allé payer ma note, quelqu'un l'avait déjà payé. Qui que ce soit, je vous en remercie. Il a dit, l'homme qui est assis au bout du banc. Bien entendu, il y avait là tout un groupe de gens que nous connaissions. Maintenant, quelque chose comme Kickapoo, une chose comme ça, l'endroit là-bas, le restaurant où nous étions. Merci, qui que ce soit qui a fait ça. Que Dieu bénisse chacun de vous. Maintenant, dans Deutéronome au chapitre 16, c'est l'observance de la Pâque. Nous souhaitons donc lire les premiers quelques versets, les premiers 4 ou 5, 6 versets ici. Observe le mois des épis et célèbre la Pâque. Cela signifie avril, de l'Éternel ton Dieu, car c'est dans le mois de ces épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel ton Dieu, tes victimes de menu et de gros bétail, dans le lieu que l'Éternel choisira pour faire résider son nom. Pendant la fête, tu mangeras du pain sans levain, mais tu mangeras 7 jours des pains, pain sans levain. C'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. On ne verra pas chez toi de pain sans levain dans toute l'étendue de ton pays pendant 7 jours, et aucune partie des victimes que tu sacrifieras le soir du premier jour ne sera gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Tu ne pourras point sacrifier la Pâque dans l'un quelconque des lieux que l'Éternel ton Dieu te donne aux demeures. Mais c'est dans le lieu qu'a choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom que tu sacrifieras la Pâque, le soir au coucher du soleil. À l'époque de ta sortie d'Égypte, maintenant que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Maintenant, est-ce que ma voix est embrouillée à cause du microphone? Hier soir, j'ai entendu dire que c'était le cas. Pouvez-vous bien entendre partout? Vous n'entendez pas bien. Est-ce mieux comme ça? Est-ce mieux comme ça si je parle avec le microphone baissé comme ceci? Je suis juste un peu enroué. C'est pour ça que je me tiens proche ce matin. Et j'espère que Frère Perry pourra s'occuper de la retransmission. Pouvez-vous entendre comme il faut maintenant? Je pense qu'ils l'ont réglé. Très bien. Maintenant, la chose dont je veux parler ce matin, c'est que Dieu n'a qu'un seul lieu où l'adorateur peut rencontrer Dieu. Un seul lieu. Tout au long des âges, beaucoup ont cherché ce lieu secret de Dieu. Tout au long des âges. Même Job voulait savoir où il vivait. Si seulement je pouvais aller chez lui et frapper à sa porte. Job voulait trouver la demeure de Dieu, car là, Dieu et sa famille adorent ensemble. Comme hier, dans le message d'hier matin, nous avons découvert qu'il est possible pour quelqu'un d'adorer Dieu en vain, même s'il adore en toute sincérité. Dieu a établi toutes ces choses pour nous, mais en fait, nous devons chercher pour trouver où elles sont. Paul a dit à Timothée de chercher, et que ce soit une occasion favorable ou non, qu'il soit prêt à donner une parole ou de l'espérance qui était en lui. Maintenant, toutes ces choses sont là, et nous voyons, un jour, j'aimerais venir à Shreveport et passer environ 2 ou 3 semaines, prendre simplement 30 minutes par soir pour donner un enseignement, voyez? Restez seulement dans la parole, ces passages secrets, voyez, où nous pourrions découvrir comment entrer. Et observez, suivez les directives de Dieu. Il n'y a qu'une seule clé pour chaque porte. C'est vrai. Et il n'y a aucune autre clé, peu importe à quel point elle lui ressemble. Dieu n'a pas de passe-partout. Il n'a qu'une seule clé. Et là, vous devez avoir cette clé, sinon la porte ne s'ouvrira pas. Peu importe à quel point vous êtes sincère, vous ne pouvez quand même pas ouvrir cette porte. Maintenant, combien étaient au petit déjeuner hier, ou l'autre matin plutôt? D'accord, je pense que la plupart, au moins 90% d'entre vous y étaient, ou plus. Pour mettre ce que je vais dire en contexte, David a été oint roi, oint de Dieu, le plus grand roi qu'Israël ait jamais eu, à part le Seigneur Jésus, c'est-à-dire Dieu. Le oint, David est son fils, où Jésus était le fils de David, selon la lignée, la chair. Et il va s'asseoir sur le trône de David en tant qu'héritier. Le prince hérite toujours du trône du roi. Remarquez maintenant, David était oint, mais bien qu'il soit oint, il est pourtant sorti de la volonté de Dieu, malgré l'onction qu'il avait. Et tous les gens du peuple, ils ne se sont pas fiés au modèle des Écritures, ou ils n'ont pas utilisé la clé de cette révélation. Et eux aussi, ils étaient tous oints, tous ensemble. Ils poussaient des cris et louaient Dieu au sujet d'une chose qui semblait tout à fait juste. ramener la parole de Dieu dans la maison de Dieu. Mais David était roi, pas prophète. Voyez, pour faire cela, il y avait un prophète dans le pays, et Dieu a refusé d'honorer toute cette démarche, parce qu'il n'avait pas du tout utilisé la bonne clé. La porte ne s'est pas ouverte. Et maintenant, nous devons nous souvenir de cela et garder cela à l'esprit. Il y a toutes les choses de Dieu doivent être faites d'une façon bien précise. Et ça règle la question. Maintenant, là, Dieu a une certaine église où il rencontre le peuple. Et il vous recevra dans cette église-là et dans aucune autre église. J'ai dit ceci parce que, tant de fois, j'ai été mal compris. Et les gens m'ont dit, je dis, êtes-vous chrétien? Je suis baptiste. Êtes-vous chrétien? Je suis un méthodiste. Êtes-vous chrétien? Je suis un pentecôtiste. Maintenant, voyez, cela ne signifie rien pour Dieu. Vous ne faites que tâtonner avec la mauvaise clé. Mais il y a une bonne clé. Il y en a une où Dieu n'a jamais promis de vous rencontrer en tant que méthodiste, ou en tant que baptiste, ou pentecôtiste, ni aucune autre dénomination. Il ne considère même pas les dénominations. Elles sont contre lui. Quant à ce long message, je l'apporterai bientôt au tabernacle. Ensuite, Frère Jack l'écoutera, et alors vous pourrez voir ce que vous voulez en faire, parce que cela sera enregistré. Maintenant, les gens agissent comme si Dieu était obligé de les rencontrer sur la base de leur théologie. Bon, les gens agissent comme ça. Ils ne veulent même pas s'associer les uns avec les autres. Les trinitaires de la Pentecôte ne s'associeront pas avec les unitaires. Et les unitaires ne s'associeront pas avec les trinitaires. Le méthodiste ne le fera pas avec le baptiste, parce que l'un est légaliste et l'autre est calviniste. Donc, ils n'ont aucune communion du tout. Et ils embrouillent si bien l'esprit des gens qu'ils se montent les uns contre les autres. Je suis allé prier, il y a quelque temps, dans une chambre d'hôpital. Il y avait une femme étendue là, très malade. Elle allait subir une opération. Ils s'attendaient à ce qu'elle meure. Une autre dame était couchée là. On m'avait fait venir pour que je prie pour elle. Je lui ai dit, « Est-ce que cela vous dérangerait que je prie juste un moment ?» Et elle a dit, « Tirez ce rideau !» Et j'ai dit, « Pardon, j'ai dit, j'allais juste faire une prière. » Elle a dit, « Tirez ce rideau !» J'ai dit, « Oui, madame. » Elle et son fils étaient là, un petit Ricky à l'allure mondaine. Et j'ai dit, « Eh bien, n'êtes-vous pas chrétienne ?» Elle a dit, « Nous sommes méthodistes. » J'ai dit, « Eh bien, ce n'est pas ce que je vous ai demandé. Je vous ai demandé si vous étiez une chrétienne. » Voyez ? Et donc, elle a dit, « Tirez ce rideau !» Voyez ? C'est parce que quelqu'un qui n'était pas méthodiste allait offrir une prière pour une femme mourante. Et elle l'était aussi. Mais parce que ce n'était pas quelque chose qui était associé à sa propre organisation, elle ne voulait même pas l'entendre ni avoir rien à faire avec ça. Si ce n'est pas là une pharisienne, je n'en ai jamais vu une. Attendez jusqu'à ce que vous entendiez la trace du serpent. Ah, très bien. Maintenant, ils pensent que leur dénomination est la seule que Dieu reconnaît. Dieu ne vous entendra pas si vous n'êtes pas méthodiste ou baptiste ou un trinitaire ou un unitaire ou quelque chose comme ça. C'est faux et c'est mon but. Mais s'il y a un tel désir dans l'esprit et le cœur des gens de marcher droit, je ne crois pas que la femme l'ait fait parce que, ou qui que ce soit d'autre. Un méthodiste ne se lèverait pas pour appuyer l'église méthodiste s'il savait que c'est faux. Cet homme pense que c'est juste. Je ne crois pas qu'un trinitaire condamnerait un unitaire ou un unitaire et un trinitaire des pentecôtistes parce qu'il veut être différent. Il pense qu'il a raison. Et vous devez respecter ses idées. Vous savez, ça va dans les deux sens. Mais souvenez-vous, dans tout cela, s'il y a quelque chose dans le cœur d'un homme ou dans le cœur d'une femme qui croit qu'une chose est juste, alors il doit y avoir quelque chose quelque part qui est juste. Comme je l'ai souvent dit, quand la profondeur appelle la profondeur, il doit y avoir une profondeur pour répondre à cet appel. Vous savez, on nous a dit que le phoque marchait autrefois sur le rivage de la mer, avec des pattes. Mais maintenant, il n'a plus de pattes. Elles se sont transformées en nageoires, parce qu'il pouvait, a eu besoin de nageoires quand il a quitté la terre pour la mer, un animal à fourrure. La nature lui a formé des nageoires au lieu des pattes, parce qu'il pouvait nager plus que marcher. Je ne me rappelle pas le nom de ce grand homme maintenant, qui est allé au pôle sud. Comment s'appelait-il? Bird. On dit qu'il a fait faire des manteaux pour du bétail, pour cette expédition. Il avait amené du bétail pour avoir du lait. Et il avait fait faire des manteaux de fourrure pour empêcher ce bétail de mourir de froid. Mais quand il est arrivé là, le bétail n'avait besoin d'aucun manteau de fourrure. La nature leur en avait fait pousser un. Voyez? Pourquoi? Avant qu'il y ait une nageoire sur le dos d'un poisson, il fallait qu'il y ait de l'eau où il puisse nager. Sinon, il n'aurait jamais eu de nageoire. Là, avant qu'il y ait un arbre qui pousse sur la terre, il fallait d'abord qu'il y ait une terre où il puisse pousser. Sinon, il n'y aurait pas eu d'arbre. Donc, vous voyez, aussi longtemps qu'il y a quelque chose dans le cœur humain qui réclame quelque chose, il faut qu'il y ait quelque chose quelque part pour répondre, pour satisfaire cet appel. Une femme, une autopsie a été faite il y a quelque temps sur une femme qui est morte. Ils prétendent que ce qui l'a tuée, c'est qu'elle mangeait des oignons constamment, tout le temps. Si elle ne mangeait pas d'oignons, sa tête lui démangeait et tout. Ils n'arrivaient pas à trouver la cause. Lors de l'autopsie, ils ont trouvé une tumeur dans la femme. C'était une sorte de cellule. Ils avaient un mot pour ça. Et ils ont pu prendre cette tumeur et ils l'ont mise dans un bol d'oignons. Et elle a dissous les oignons pendant la nuit. Voyez, qu'est-ce que c'était? C'était quelque chose dans la femme qui réclamait des oignons. Et s'il n'y avait pas eu d'oignons, il n'y aurait pas eu de tumeur. Autrement dit, il faut qu'il y ait d'abord un créateur avant qu'il puisse y avoir une création. Voyez? Maintenant, si dans le cœur humain il y a un désir, comme les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les catholiques et tous les autres, qui essaient de trouver ce seul et véritable chemin, mais leurs prêtres, leurs pasteurs et ainsi de suite leur disent « Ceci est le véritable chemin ». Ils disent, le prêtre dit « Il n'y a pas de salut en dehors de l'Église catholique ». Eh bien, chaque Église prend son à sa propre idée. Certaines d'entre elles ne l'admettront pas, mais elles le prouvent par leurs actions. Vos actions parlent plus fort que vos paroles. C'est juste un « autrement dit, ils sont plus hypocrites que les catholiques ». Le catholique le confesse à haute voix. Je crois que ça, c'est la seule chose. Mais eux, ils ne le feront pas. Ils le cachent. Mais leurs actions prouvent ce qu'ils pensent. Voyez? Maintenant, il faut qu'il y ait un seul lieu. Parce qu'il y a un désir dans le cœur humain de le trouver. Et je pense que la parole de Dieu a la réponse à tout ce dont nous avons besoin. Donc Dieu a la réponse. Alors, cherchons-la dans les Écritures. Et puis, si Dieu nous montre par les Écritures le seul lieu, la seule condition, la seule dénomination, si c'est le cas, le seul moyen pour Dieu de rencontrer un homme, alors nous devrions nous accrocher à cela, parce que nous avons trouvé la vérité de la Bible, ce qu'elle dit. Maintenant, le mot « Deutéronome », le mot lui-même signifie « deux lois ». Le mot « Deutéronome ». Et Dieu a deux lois. Les deux lois, l'une d'elles est la désobéissance à la parole et mourir. Et l'autre est l'obéissance à la parole et vivre. Ce sont les deux lois. Et Deutéronome signifie ces deux lois. Nous avons vu ces deux lois être clairement démontrées dans les Écritures. L'une d'elles est la mort, l'autre est la vie. La vie est la mort. Dieu œuvre seulement dans la vie, Satan seulement dans la mort. Et ces lois ont été démontrées publiquement devant le monde, ouvertement à la vue de tous. Alors, il n'y a aucune excuse pour nous. L'une d'elles a été exprimée sur le mont Sinaï, quand la loi a été donnée. Elle condamnait à mort toute la race humaine. L'autre a été donnée sur le mont du Calvaire. Elle a amené toute la race humaine à la vie lorsque la peine a été payée en Jésus-Christ. Les deux lois de Deutéronome ont été accomplies dans ces deux grandes choses. Je veux que vous remarquiez autre chose. Il y a aussi deux alliances qui ont été données. Une alliance a été donnée à Adam. Elle était conditionnelle, comme une loi. Si tu ne touches pas ceci, tu vivras. Mais si tu touches ceci, tu mourras. C'était une loi. Ensuite, il y a une autre loi qui était donnée à Abraham. Et c'était par la grâce. Elle était inconditionnelle. Je t'ai sauvé, toi et ta postérité après toi. Amen. C'est un type du calvaire. Ce n'est pas le type de l'alliance d'Adam. C'est une alliance abrahamique. Mais maintenant, nous l'entendons dire qu'il n'y a qu'un seul lieu où il rencontrera l'homme pour l'adoration. Nous l'avons lu ici même dans le texte. Nous y reviendrons dans quelques minutes. Alors, s'il n'y a qu'un seul lieu où Dieu rencontre l'homme, nous ferions mieux d'être très prudents. Maintenant, laissons nos traditions de côté ce matin et pendant cette leçon d'école du dimanche et soyons absolument certains de trouver ce seul lieu. Parce que Dieu a dit ici qu'il ne vous recevra dans aucun autre lieu. Il ne vous recevra dans aucune autre église, seulement dans son église. C'est le seul lieu où il vous recevra. Bon, qu'est-ce que vous avez dit, frère Branham? Si je suis sincère? Non. Souvenez-vous, Jésus a parlé à des gens sincères, les adorateurs en son jour, et il a dit, c'est en vain que vous m'adorez. Une véritable et authentique adoration du fond de leur cœur. C'est en vain que vous m'adorez, en enseignant comme doctrine des commandements d'hommes, ou leur credo dénominationnel. Sincères, respectueux, ils étaient aussi religieux que possible. Et ce n'était pas quelque chose qui avait commencé chez les pharisiens. Cain et Abel, les deux premiers adorateurs qui sont nés d'une naissance naturelle ici sur la terre, sont venus avec la même attitude. Tout à fait. Cain était aussi religieux qu'Abel. Ils ont tous deux construit des autels. Les deux aimaient Dieu. Les deux ont offert des sacrifices. Les deux adoraient. Les deux payaient la dîme. Les deux faisaient exactement les mêmes choses. Mais Abel, par la foi, ce qui est la révélation, la parole de Dieu révélée, rendue claire, démontrée et confirmée. Gloire, Cain a fait une offrande, mais Dieu ne l'a pas confirmée. Dieu exigeait l'adoration, et Cain a fait une offrande, mais Dieu ne l'a pas confirmée. Mais par le véritable canal, vous dites, « Eh bien, mon Église est l'authentique, ma... » Attendez un instant. Dieu interprète sa propre parole selon les termes qu'il a employés. Voyez, Cain a dit, « Je suis religieux. Je suis amoureux de mon Créateur. Je t'offre ce bel autel. Je t'offre ce sacrifice. J'ai construit toutes ces choses, Seigneur, parce que je t'aime. » Abel a dit la même chose. Or, c'est celui qui était confirmé, celui qui était approuvé. Et Dieu est descendu et a accepté le sacrifice d'Abel, parce que, par révélation, il avait trouvé le véritable canal de Dieu qui était accepté. Maintenant, regardez bien cet esprit de Cain se faufiler à travers les Écritures, jusqu'à ce tout dernier jour. Fondamentaliste, tout aussi fondamentaliste que l'autre l'était. Observez le prophète Balaam et le prophète Moïse. Les deux avaient sept autels, des autels de Jéhovah, du sang sur chacun d'eux. Et non seulement ça, mais des béliers sur chacun. Selon la numérologie, exactement le bon nombre, sept, parfait. Sept béliers, exactement pareil, les deux autels, aussi fondamentalistes qu'un l'était, l'autre l'était aussi. Mais qui Dieu a-t-il confirmé? Voyez, voyez, celui qui était dans sa parole. Être fondamentaliste ne signifie pas grand-chose. C'est la révélation de Dieu. Maintenant, réfléchissez. Ces hommes, pourquoi étaient-ils appelés et mis dans cette catégorie, ces pharisiens, par Jésus, qui a dit, « C'est en vain que vous m'adorez. » L'adorer, une adoration authentique, une véritable adoration, venant de leur cœur. Vous, c'est en vain que vous m'adorez. Pourquoi? Enseignant comme doctrine leur tradition d'homme. Par conséquent, vous annulez l'effet des commandements de Dieu sur les gens. Si je vous enseignais un message méthodiste, cela n'aurait pas d'effet sur vous. C'est le temps de l'épouse. Si Moïse avait enseigné le message de Noé, cela n'aurait eu aucun effet. Si Jésus avait enseigné le message de Moïse, cela n'aurait eu aucun effet. Parce que les semences prédestinées sont là, et elles ne seront arrosées que par le type d'eau donnée pour cette semence. Voyez, elles ne croîtront sous aucune autre condition. Il faut les conditions requises pour les faire croître. Maintenant, vous pouvez prendre un œuf de poule et le placer dans un incubateur, quand il devrait se trouver sous une poule. Mais il va éclore quand même. Placez-le sous un chiot, il va éclore. C'est la chaleur, les conditions qui le font éclore. Donc, cela doit être soumis à des conditions. Vous pouvez prendre un bon œuf vivant et le placer sous une poule morte. Il n'éclora pas. Voyez, voyez, ce sont les conditions. Eh bien, c'est comme ça dans cet âge où nous vivons. Vous devez trouver ce qui est la façon de faire de Dieu pour cet âge. C'est ce que Martin Luther a trouvé. C'est ce que John Wesley a trouvé. C'est ce que les pentecôtistes ont trouvé dans leur âge. L'âge déterminé par Dieu est le temps pour le faire. Maintenant, les pentecôtistes, ce frère, il ne voyait pas d'un œil, un frère de couleur qui a vraiment commencé le message pentecôtiste en Californie, sur la vieille rue Azusa. On se moquait de lui parce qu'il était noir. On se moquait de lui, mais il a apporté un message pour cet âge-là. Ce n'était qu'un petit homme qui pouvait à peine signer son propre nom, mais le Seigneur lui avait révélé que c'était l'âge pour la restauration de ses dons. Et c'est arrivé. Peu importe ce qu'on disait, c'est arrivé. Puis tout le monde est entré dans l'atmosphère de la chose. Ils ont vu qu'il s'agissait bien de cet âge-là. Ils ont vu Dieu confirmer que ces gens pouvaient parler en langue, et ainsi de suite. C'est arrivé. Mais quand il a continué et affirmé que ceci est la seule preuve, cela a tué la chose. Voyez ? Puis ils ont continué avec ça, vous voyez ? Voilà ce que cela a produit. Ensuite, ils ont commencé à séparer ceci, cela, et à former des dénominations. Une, qu'il vient sur un nuage, l'autre, qu'il vient dans un buisson. Et, oh là là, c'était parti. C'est ce que font les dénominations, voyez. Dieu n'est pas l'auteur de la dénomination, parce que la dénomination, c'est Babylone. Et il n'est pas l'auteur de la confusion. Nous la voyons toutes. Vous n'avez même pas besoin d'être un intellectuel pour voir cela. C'est Babylone, voyez. La tradition, pensez-y, des gens sincères. Maintenant, quand même, parce qu'ils croient cela, il faut quand même qu'il y ait un lieu sincère où Dieu peut nous rencontrer. Maintenant, remarquez le verset 2. Adorez dans le lieu que moi j'ai choisi. Le sacrifice, bien sûr, ils adoraient là où ils offraient le sacrifice. Le lieu que moi j'ai choisi. Non pas ce que vous avez choisi, ce que l'homme a choisi. Mais celui que moi j'ai choisi, vous adorerez dans ce lieu. Cela montre qu'il n'y a qu'un seul lieu. Les autres sont vains. Ça ne doit pas être votre choix, mais ça doit être son choix. Eh bien, je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Ou vous êtes si étroit d'esprit. Eh bien, vous reprenez même les femmes sur le fait de prêcher, et, ou les femmes qui coupent leurs cheveux, et les hommes sur ces autres choses. Eh bien, vous êtes tellement étroit d'esprit. Très bien, vous n'êtes pas obligé de prendre la voie de Dieu. Vous allez là où ils font ces choses. Voyez ? Et vous verrez que c'est dans l'Écriture, là. C'est en vain qu'ils m'adorent. Jésus parlait de la même chose. Voyez, chaque petit iota, tout, vous devez y rester fidèle. C'est toujours la petite vigne, le petit renard qui ravage la vigne. Parfois, vous laissez. Ce ne sont pas les grandes choses que vous faites, ce sont les petites choses que vous ne faites pas. Souvenez-vous, la force d'une chaîne se mesure à son maillon le plus faible. Heureux ceux qui observent tous les commandements de Dieu, afin qu'ils puissent avoir le droit d'entrer. Faites tout ce que Dieu a dit. S'il est dit que les femmes doivent porter les cheveux longs, vous dites, un homme m'a dit il n'y a pas longtemps, il a dit, je ne prêche pas une religion qui insiste sur les vêtements. Je dis, alors vous ne prêchez pas l'évangile. Oui, Dieu l'a présenté clairement, il a dit ce qu'il fallait faire. Et soit vous le faites, c'est une chose naturelle et raisonnable. La petite chose, là, ces petites choses insignifiantes. Jésus a dit, heureux ceux qui sont fidèles dans toutes les petites choses, qui observent les petites choses. Et pour une femme, de laisser pousser ses cheveux, c'est simplement un, eh bien, c'est quelque chose qu'elle peut faire. Et elle ne veut même pas le faire. Elle ne veut même pas le faire. Oh, enseignez-nous de grandes choses. Comment pouvez-vous enseigner les grandes choses quand vous ne voulez pas faire la chose simple et élémentaire? Parce que, voyez-vous, votre motif et votre objectif sont faux. C'est votre amour pour Dieu. Seigneur, peu m'importe ce que tu veux que je fasse, je suis prêt à le faire. Là, vous êtes sur la bonne voie. Mais si vous ne le faites pas de cette façon, la façon dont il a dit de le faire, c'est son choix, le lieu que j'ai choisi. C'est là que vous adorez avec votre sacrifice. Vous avez mis Caïn à présenter son sacrifice. Abel a présenté le sien. Cela dépend du lieu où vous le présentez. Si vous le présentez dans le lieu qu'il a choisi, ce sera bien, il l'acceptera. Sinon, il ne l'acceptera pas. Peu m'importe que ce soit le même sacrifice ou quoi que ce soit, c'est toujours un rejeté, à moins qu'il soit présenté dans ce lieu précis. Maintenant, nous voulons savoir où nous devons présenter ce sacrifice. Si nous pouvions le savoir, nous voulons tous aller au ciel, n'est-ce pas? Et nous savons tous que nous avons déjà mal agi. Nous croyons tous que Jésus est le sacrifice. Maintenant, nous voulons savoir où le présenter, où ce sera accepté. Voyez, c'est vrai. La Bible nous dit où le présenter, voyez, et ce sera accepté. Ailleurs, ce ne sera pas accepté. Remarquons là aussi le lieu qu'il a choisi pour déposer le sacrifice. Le lieu qu'il a choisi pour mettre le sacrifice. Vous ne pouvez pas le mettre sur l'une de ses portes, mais là où il a choisi de le mettre, il a également choisi de mettre son nom dans ce lieu. Voyez, c'est ce qu'il a dit ici. Il a choisi d'y mettre son nom. Maintenant, nous allons sonder les Écritures pour trouver ce lieu, car c'est le lieu où il a mis son nom. Lisons maintenant dans le texte. Et j'avais une petite note ici que ce matin, ça m'est venu à l'esprit. Prenons le verset 2 de ce chapitre. Maintenant, je ne veux pas vous garder trop longtemps à cause des gens qui sont en ligne à différents endroits. Maintenant, le verset 2 du chapitre 16. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel, ton Dieu, tes victimes de menu et de gros bétail, dans le lieu que l'Éternel choisira pour y mettre son nom. Maintenant, vous ne pouvez pas prendre votre sincérité et tout ce que vous voulez confesser. Vous ne pouvez pas la porter à l'autel méthodiste, à un autel baptiste, à un autel pentecôtiste, mais il y a un autel quelque part qu'il a choisi pour y mettre son nom, et il vous rencontre à cet endroit-là. Maintenant, si vous faites tout comme il faut, ça va fonctionner. Alors tout est en ordre. S'il y a un court-circuit dans ce fil, cette lumière ne s'allumera pas, parce que la ligne a été disjonctée. Et quand vous prenez l'une des paroles de Dieu ou l'un de ces lieux, et que dans votre cœur, il y a des objectifs égoïstes, ça va disjoncter la puissance de Dieu, juste là. Si vous le faites parce que vous voulez être intelligent, vous voulez être différent de quelqu'un d'autre, ou quoi que ce soit, juste là, il y a disjonction. Ça fera sauter le fusible. Vous avez tort. Vous devez venir avec sincérité, de tout votre cœur, vos motifs et vos objectifs centrés sur Dieu. Ensuite, cherchez son lieu, trouvez le lieu qu'il a précisé et présentez-le là. Voyez, observez Marthe et Marie. Quand Jésus est revenu, Après qu'il leur enseignait cet évangile, la lumière de son jour, lui étant le Messie, il était haï, rejeté. Oh, les pharisiens et les églises le méprisaient. Mais Lazare est mort, le frère qui, pour lui, était un ami intime. Il a laissé être étendu là. Ils l'ont envoyé chercher, il n'est même pas venu. Mais observez Marthe, son attitude. Elle a dit, « Seigneur, si tu avais été ici, elle lui a donné son titre juste. Seigneur, S majuscule E-I-G-N-E-U-R, Yahweh, Jéhovah, gloire. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. La vie et la mort ne peuvent pas se trouver dans le même canal ou dans la même maison. Tu avais, il ne serait pas mort. Jésus lui a dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Dieu a-t-il dit, quand il a premièrement dit, « Ton frère ressuscitera. » Elle a dit, « Oui, Seigneur, je le crois réellement. En tant que juive, je crois qu'il y aura une résurrection générale des morts. Et je crois que mon frère était tout aussi loyal et sincère dans l'adoration. Et je crois que tu es ce Messie qui est mentionné dans la Bible, parce que Dieu confirme sa parole en toi, ce qui indique que tu es le messager de cette heure. Tu es ce Messie. Je crois que tu es ce Christ qui devait venir, parce que tes œuvres témoignent que Dieu t'a envoyé ici pour être ce Messie. Oh là là, regardez les rouages commencer à s'engrener maintenant. Voyez, maintenant, elle avait le droit de dire, « Pourquoi n'es-tu pas venu ressusciter mon frère? Pourquoi ne l'as-tu pas guéri? Tu en as guéri d'autres. Il était ton meilleur ami. Et regarde maintenant ce qui est arrivé. » Non, non, ce genre d'objectif ne mène nulle part. Je crois que tu es celui qui est clairement identifié dans l'Écriture. Je crois que c'est le jour où le Messie devait venir. Nous nous attendions à cela, peu m'importe ce que les autres en disent. Je crois de tout mon cœur, grâce à ce que j'ai vu et entendu de la parole, que la parole est confirmée en toi, que tu es ce Messie. Vous voyez, au fond d'elle-même, elle avait quelque chose à demander, mais elle devait venir par le bon canal. Et si elle s'était approchée en courant et avait dit, « Et là, tu me dis que tu es le Messie ?» Sans même avoir la courtoisie, sans être assez gentleman pour répondre à notre demande, alors que nous t'avons nourri, logé et tout, et pris position pour toi, nous avons laissé nos églises, étant donné que tu nous as ordonné de sortir de ces dénominations. Voyez, et là, nous l'avons laissé, et maintenant nous sommes considérés comme des parias et des renégats. Et après tout ce que nous avons fait pour toi, tu n'as même pas eu la courtoisie de répondre à mon appel? Eh bien, en fait, elle avait ce droit. Comme vous dites au sujet de vos cheveux courts, je suis une citoyenne américaine, je peux porter des shorts, faire tout ce que je veux, ce n'est pas illégal. Ce sont vos droits, mais une brebis renonce toujours à ses droits. Oui, si vous êtes un agneau, il n'a rien d'autre que de la laine, et il renonce à cela. C'est son droit donné par Dieu, mais il y renonce. J'ai le droit d'adhérer à n'importe quelle dénomination, c'est tout à fait exact, mais vous renoncez à cela, voyez? Elle a renoncé à tous les droits qu'elle avait pour reconnaître la parole de Dieu manifestée là devant elle. Il a dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Si quelqu'un vit et croit en moi, il ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Voyez, il y avait encore chez elle une petite dent de l'engrenage qui ne s'engrenait pas encore comme il faut. Voyez, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Oh, frère, tout était prêt à se déclencher à cet instant-là. Voyez, où l'avez-vous mis? Voyez, et vous savez ce qui s'est passé. Voyez, vous devez entrer dans le lieu qu'il faut avant qu'il reçoive votre sacrifice. Voyez, vous devez y entrer. Observez. Dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Pendant la fête, tu ne mangeras pas du pain levé. Qu'est-ce que cela symbolise dans le sacrifice? Ne le mélangez avec aucun credo. Ce doit être la parole. Pas du pain levé. Le levain est le... Vous savez ce qu'est le levain dans quoi que ce soit. Un peu de levain fait lever toute la pâte. La pâte entière est le corps. Vous ne pouvez mettre aucun brin de dénomination ou de credo en Christ. Non, monsieur, ça ne fonctionnera pas. Vous souvenez-vous du message de jeudi soir dernier? Votre ancien mari doit être mort. C'est vrai. Votre nouveau mari est la parole. Mais tu mangeras 7 jours des pains sans levain. 7 jours, c'est un type de quoi? Les 7 âges de l'Église, en entier. 7 jours. Pourquoi devait-il en manger 7 jours? Avant quoi? Avant de sortir. Et l'âge de l'Église en entier, du début à la fin, doit vivre uniquement de la parole de Dieu pour cet âge en question. Ainsi, votre credo romain, méthodiste, baptiste et vos credos pentecôtistes, ils sont tous morts. Bon, observez, dedans, du pain d'affliction, ils ont été persécutés à cause de cela. Luther, Wesley, les pentecôtistes, ils ont tous été persécutés et vous le serez aussi. Car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte, afin que tu demeures le jour où, souvienne toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. On ne verra point dans chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays pendant 7 jours, dans la belle épouse de Christ, après sa mort par l'Empire romain, pendant l'âge des ténèbres. Là, elle devait mourir, si le grain de blé ne tombe en terre. L'époux devait venir, le chef-d'œuvre parfait de Dieu. Vous avez tous entendu mon message sur ce sujet. Un jour, je suis allé à Los Angeles, à Forest Lawn, et mon cœur a fait un bond. Combien sont déjà allés à Forest Lawn? Il y a une, la statue de Moïse par ange. Je crois que c'est Michel-Ange. Et c'est une statue parfaite, partout, sauf sur le genou droit. Il y a une entaille d'une profondeur d'environ 1 centimètre. Et le guide, je regardais, et il me l'a montré du doigt. Il a dit, Michel-Ange a passé toute sa vie à essayer de faire... Il était sculpteur, et il essayait de reproduire l'image de Moïse. Dans sa pensée, il avait dans son esprit ce à quoi Moïse devait ressembler. Il avait cela dans son cœur, ce à quoi Moïse devait ressembler. Puis, il a passé sa vie à ciseler un peu ici, à le frotter, à reculer un peu et à le regarder. Année après année, après année, il a travaillé dessus. Enfin, quand elle a été terminée, il a reculé, déposé son chiffon et son marteau et il a regardé la statue. Elle était si parfaitement à l'image de Moïse qu'il avait dans son cœur, qu'il s'est emballé au point qu'il a saisi son marteau et l'a frappé en hurlant « Parle !» On l'appelle le chef-d'œuvre de Michel-Ange. Ce grand quelque chose dans ce sculpteur, cette vision qu'il avait de ce que Moïse devrait être, représentait sous forme de type le grand Dieu, le Père. Il avait dans son cœur, avant la fondation du monde, un Fils, parce qu'il est un Père. Mais c'était encore dans les gènes de sa parole. Et il a créé un homme, et il a dû lui donner le libre arbitre. Mais cet homme est tombé. Mais le grand sculpteur, Dieu, qui a fait l'homme de la poussière de la terre, ces choses ne l'ont pas arrêté. Il a commencé à faire l'homme de nouveau. Puis, il a fait un Noé. Il est mort ivre. Il a fait un Moïse, qui n'a pas réussi à garder sa parole. Il a fait des prophètes, qui ont fui dans les moments difficiles. Et il a continué de construire et de mouler, au point qu'au bout de quelque temps, il voulait un chef-d'œuvre pour le refléter, sa nature, ce qu'il avait dans son cœur, de ce qu'un fils devrait être. Un jour, là-bas au Jourdain, après que ce chef-d'œuvre a été formé et créé, voici qu'il est descendu sur les ailes d'une colombe et a dit, c'est lui. Il était si ému par ce chef-d'œuvre, qu'il l'a frappé au calvaire, afin qu'il meure pour nous tous qui sommes imparfaits, que par l'effusion de son sang, il puisse produire de nombreux chefs-d'œuvre, c'est-à-dire une épouse pour son fils. Le chef-d'œuvre a une cicatrice, parce que Dieu était si enthousiaste en voyant un tel chef-d'œuvre, il l'a frappé pour nous tous. Voyez, là, il est mort pour nous rendre parfaits, nous qui sommes imparfaits, le chef-d'œuvre. Remarquez, ici, il a dit, « Mais tu mangeras 7 jours ces pains sans levain. » Maintenant, le pain est un type. Jésus a dit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. » Pas seulement une parole ici et là, comme les dénominations voudraient que vous la croyiez. Mais la parole de Dieu est parfaite. C'est Dieu lui-même, sous forme de lettre, appelé une semence. Et la bonne sorte de foi, sans mélange, dans cette parole, amènera cette semence à la vie. C'est exactement ce que vous voyez le soir, lors du discernement et toutes ces autres choses, parce que c'est une promesse que Dieu a faite. Il s'est tenu à mes côtés et m'a dit ceci. Il m'a dit que ces imposteurs s'élèveraient, mais de tenir ferme. Je le crois, sans aucun motif égoïste, pour ne blesser personne, mais pour être respectueux envers Dieu et pour faire le travail qu'il m'a appelé à faire. C'est pour ça que je dis ces choses. Et Dieu, en retour, les confirme. Et il accepte l'offrande et le sacrifice en confirmant que c'est la vérité. Il n'y a pas de doute au sujet de cela. Maintenant, observez cette parole. Or, nous remarquons ici 7 jours, ce qui représente chaque âge de l'Église. Maintenant, comme ce chef-d'œuvre devait mourir afin de ressusciter pour nous racheter tous, il a établi une Église à la Pentecôte, mais cette Église devait passer par un sacrifice. Et le monde romain l'a tué, l'a mise en terre, comme l'auteur de ce livre. Je ne me souviens pas du titre en ce moment. Il s'est tellement moqué de moi. Et il a dit, « De tous les démons, c'est William Branham, le plus grand. » Vous voyez, c'est ce que le diable essaie de dire. Il a dit, « Les visions et ces choses, a-t-il dit, c'est du diable, a-t-il dit. » Ou bien, il est une sorte d'hypnotiseur, où il travaille dans le domaine de la perception psychosensorielle. Le monde intellectuel cherche toujours à comprendre cela. C'est là qu'ils ont essayé de comprendre Jésus. Comment fais-tu ces choses? Comment cela se fait-il? Il a dit, « Je vais vous poser une question. Le ministère de Jean-Baptiste, était-ce de Dieu ou était-ce des hommes ?» Voyez, ils ont dit, « Nous ne savons pas. » Il a dit, « Moi non plus, je ne vous le dirai pas. » C'est vrai, ils sont partis. Depuis ce jour, personne ne lui posa plus de questions. Voyez, il les a simplement réduits au silence. Il ne leur a rien dit au sujet de cela. Ce n'était pas leurs affaires. Il avait un travail à faire et il l'a terminé. Que Dieu nous aide à faire la même chose. Nous n'avons pas à répondre aux questions du diable. C'est vrai, si tu es, fais telle chose. En tant que prédicateur, vous êtes responsable de cet évangile. Et c'est tout, pas de la façon dont il est écrit. Simplement responsable de le citer. Et en tant que serviteur, si vous êtes un prophète, vous êtes responsable envers Dieu. Et si les visions qui viennent éclairent cette écriture et montrent ce qu'elle est, vous êtes responsable de chaque parole qui est dans cette Bible, parce qu'elle était entièrement écrite par le même genre de personne que vous. Dieu a autrefois agi par les prophètes et a écrit la Sainte Bible. Voyez, et aucun véritable prophète de Dieu ne pourrait en nier une seule parole. Il croit chaque parole et la prêche telle qu'elle. Et alors, Dieu est tenu par ce canal de faire en sorte que cette parole s'accomplisse exactement comme elle est promise. La semence croîtra. Maintenant, remarquez aussi, rapidement, nous voyons ici qu'on devait manger ce pain pendant tous ces 7 jours, au fil des 7 âges de l'Église. Eh bien, alors que cela devait mourir et tomber en terre. Et ce critique qui a parlé de moi a dit, « Un Dieu que vous adorez, qui pouvait se tenir dans l'âge des ténèbres et regarder ses mères, enceintes, certaines d'entre elles, avec des petits bébés dans leurs bras, des gens sincères, être jetés dans l'arène, et les lions qui les déchiraient en morceaux, et elles qui criaient, on les suspendait sur des croix et on les brûlait. On déshabillait complètement les femmes, des jeunes vierges. On les renversait comme ceci, puis on lâchait les lions sur elles. Il a dit, un Dieu qui pouvait se trouver dans le ciel, censé être assis sur son trône, a baissé le regard et a dit qu'il y prenait plaisir, a-t-il dit. Alors, vous voyez, voilà la conception intellectuelle qui vient du diable. Si l'homme avait été spirituel, il aurait su que ce grain de blé devait mourir, qu'il devait être enterré dans une cathédrale romaine. Mais là, la première petite pousse de vie est apparue à la réforme de Martin Luther, qui était « Le juste ne vivra pas par un pain cachère béni qu'un prêtre a fait, mais par la parole de Dieu. Le juste vivra par la foi. » Il a produit deux brins. Le grain de blé a commencé à pousser. Ensuite, John Wesley est venu et il a ajouté à cela. Il y en a eu beaucoup d'autres que Swingley et les autres sont venus et ont renié la naissance virginale. Et ça s'est éteint. Mais les méthodistes sont venus, l'aigrette, le pollen, l'air missionnaire. Ils prêchaient la sanctification. Ils ont ajouté l'aigrette. Ensuite, les pentecôtistes sont venus dans la balle, tellement au point de séduire les élus. Elle ressemblait à un vrai grain de blé. Ouvrez-la, il n'y a pas de blé du tout. Mais la vie passe par la balle. Maintenant, avez-vous remarqué, tous les 3 ans, après de grandes réunions, qu'est-ce qui se passe? Une dénomination. Ceci dure depuis 20 ans et aucune dénomination n'a été formée. Cher agneau mourant, puisse cela ne jamais se produire. Si je pars dans cette génération, puissent les gens qui croient ce message ne jamais accepter de former une dénomination. Dieu va, vous allez mourir sur place. Souvenez-vous de ça. À l'heure même où vous mentionnerez l'idée d'une dénomination parmi vous, peu m'importe combien vous êtes sincère, si vous prenez l'homme pour vous conduire au lieu du Saint-Esprit pour confirmer cette parole, c'est l'heure où vous mourrez. La semence véritable ne le peut pas, parce qu'il ne reste rien après la semence. C'est la même chose que ce qu'il y avait au commencement. C'est l'épouse qui est tombée en terre pour produire de nouveau le grain de blé. Remarquez, mais tu mangeras 7 jours des pains sans levain, et il y aura avec l'épouse. Or, vous, les gens, y aviez une bonne vieille mère méthodiste, qui poussait des cris, et ainsi de suite. Et vous vous demandez, si elle n'a pas parlé en langue, elle n'y sera pas. C'est un mensonge. Elle avait ce même Saint-Esprit que vous avez aujourd'hui, mais c'était sous forme d'aigrette, pas la restauration des dons. Mais pendant tous ces 7 jours, ne mangez que le pain sans levain, la parole. Les autres, jadis, qui ont formé une dénomination, ils sont morts, ils sont la tige, on les rassemblera et ils seront brûlés, tout simplement. Mais la vie continue d'avancer. Et qu'arrive-t-il? Toute la vie qui était dans la tige, dans l'aigrette, dans la balle, se retrouve dans le blé. Et ce même Saint-Esprit qui a produit un Luther, produit un Wesley, produit les pentecôtistes, se retrouve dans l'épouse à la résurrection. Tu mangeras 7 jours des pains sans levain. On ne trouvera aucun levain parmi l'épouse, aucune parole ajoutée, rien du tout. Souvenez-vous, une seule parole a causé chaque mort sur la terre. Chaque enfant illégitime est né par Ève, la première église, l'épouse du premier Adam, a douté de la parole de Dieu et a accepté une explication dénominationnelle ou intellectuelle ou pédagogique de la parole. Parce qu'on a raisonné la chose en disant, certes, Dieu est un Dieu bon. Dieu est un Dieu bon, mais il est aussi un Dieu juste. Nous devons garder sa parole. La pédagogie, elle l'a acceptée. C'est là que certains d'entre vous, les jeunes hommes qui vont au séminaire, vous avez sans doute un appel dans votre vie, mais vous partez vers une école biblique pour qu'on injecte cette doctrine en vous. Et c'est là que vous mourrez. Tenez-vous-en à Dieu et à sa parole. Ils ne vous permettront pas de le faire, ou vous ne pouvez même pas faire partie de leur assemblée. Ils ne vous accepteront pas sur l'estrade. Alors, laissons-les à leurs affaires. Laissons les morts enterrer les morts, et suivons Christ, la parole. Maintenant, pendant 7 jours, il n'y aura pas de levain mélangé à l'épouse, l'Église. 7 jours. Maintenant, remarquez, puisque aucun... On ne verra point au toit de levain dans toute l'étendue de ton pays pendant 7 jours. Le sacrifice est un type ici, l'épouse qui sort du sacrifice, qui est Christ. Et aucune partie des victimes que tu sacrifieras le soir du premier jour. Et vous souvenez-vous que nous venons juste d'étudier les âges de l'Église? Le messager de l'Église vient toujours juste au moment où l'âge de l'Église précédent se meurt. Toujours. La mort du pentecôtisme entraîne l'enlèvement de l'épouse. Voyez? La mort de Luther a amené Wesley. Voyez? La mort de Wesley a amené le pentecôtisme. La mort du pentecôtisme amène maintenant le message. Voici, c'est ici même. On en voit le modèle d'un bout à l'autre des Écritures. Il n'y a pas un seul passage de l'Écriture dans la Bible qui ne concorde pas l'un avec l'autre. Voyez? Tous ces types. Je n'ai pas d'instruction, mais j'ai le Saint-Esprit qui me montre, par un autre canal, la nature, comment enseigner ces choses. Et c'est selon la parole. Ce doit être la parole. Ces choses qui sont promises. Partie, le sacrifice, soir du premier jour, ne sera gardé pendant la nuit jusqu'au matin. Or, même Luther, qui avait la vérité, a enseigné à l'Église que le juste vivra par la foi. Vous ne voulez pas vous accrocher à ça comme étant la doctrine en entier, dont l'âge méthodiste. Que devriez-vous faire? Brûlez-le. De quoi était-ce le type? La dénomination qui sort de cette parole est une balle, la tige, l'enveloppe. Elle doit être brûlée. Cette partie dénominationnelle par laquelle elle est passée ne doit pas être gardée. Elle doit mourir. Ne la gardez pas jusqu'à la venue d'un autre âge. Brûlez-la. Il parle maintenant à l'épouse, ici, à l'épouse seule, qui est présente dans chaque âge. Remarquez comme c'est beau. Le sang de l'agneau, ça, c'est le corps de Christ, le sacrifice, le sang de l'agneau sur la porte. Maintenant, souvenez-vous, l'agneau a été immolé, et c'était un type de Christ. Nous pourrions prendre beaucoup de temps, mais je n'ai que quelques minutes de plus ici. Je vais peut-être devoir m'arrêter et continuer ce soir, voyez, parce que ça prend trop de temps. J'ai 20 pages là-dessus, ici, des notes, sur ce seul sujet. Remarquez maintenant, à ce sujet, l'agneau était Christ sous forme figurative. Ou, ai-je dit ça correctement? Un type, Christ était l'agneau. Ce devait être un mâle, le premier-né de la maman brebis, ou brebis, quelle que soit la façon que vous choisissez de l'appeler. Il devait être son premier-né, et il devait d'abord être éprouvé pour voir s'il y avait un défaut sur lui. Maintenant, Christ a été éprouvé, le premier agneau de la maman brebis, la Vierge Marie. Et il a été éprouvé par quoi? Satan contre la parole. Quand il a frappé Ève, elle est tombée. Il a frappé Moïse, il est tombé. Mais quand il a confronté Christ et qu'il a essayé de lui citer l'Écriture de travers, oui, il a découvert que ce n'était pas Moïse. Voyez, il était éprouvé. Qu'est-ce? Il s'est retourné et a dit, « Si tu es le Fils de Dieu, bon, ils me disent que tu fais des miracles. Ils me disent que le Messie doit faire cela. Maintenant, si c'est le cas, tu as faim, tu n'as pas mangé. Change ces pains ou ces pierres en pain. Et mange. » Il a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, votre credo, et ainsi de suite. Mais de quoi? De toute parole. Une partie de la parole? De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est de cela que l'homme vit. Voyez, l'agneau a été éprouvé pour voir s'il était tombé quelque part. Les pharisiens, « Oh, Rabbi, toi, jeune prophète, nous pensons que tu es merveilleux, tu es bon. Pourquoi m'appelez-vous bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Croyez-vous cela? Oh oui, Dieu. Eh bien, je le suis, alors. Ah, vous avez dit qu'il n'y en a qu'un seul qui est bon. Pourquoi m'appelez-vous bon quand vous ne croyez pas que je suis Dieu? Ah oui, alors pourquoi m'appelez-vous bon? Qu'est-ce qui vous pousse à faire ça? qu'est-ce qui vous a inspiré à dire ça, quand vous savez qu'il n'y en a qu'un seul qui est bon, et c'est Dieu? Nous savons que tu ne tiens pas compte de la dignité des hommes, ni de leurs paroles quant à leur position. Nous le savons. Essaye. Il connaissait cet hypocrite. Voyez, il a été éprouvé pour voir où il se tenait. Voyez, éprouvé de toutes les manières. Éprouvé comme nous sommes éprouvés. Mais pour lui, c'était hors de question de céder. Non, monsieur, c'était le Fils de Dieu. Et l'agneau a été éprouvé et gardé pendant 14 jours. C'était deux sabbats, ou deux âges. L'un pour les Juifs, qui offrait l'agneau, un type, l'autre pour les gens des nations, qui avaient le véritable agneau. Et ils ont tous été rendus parfaits en croyant que cet agneau allait venir. Mais il a été tenté pendant 14, ou a été examiné pendant 14 jours. Il était la parole. Vous pouvez examiner l'Ancien Testament et dire, ça condamne le nouveau. Vous vous trompez. L'Ancien Testament rend simplement témoignage du nouveau. Un homme allait me défier il n'y a pas longtemps. Il a dit, qu'est-ce qui se passe avec lui? Il a dit, eh bien, il enseigne même des choses de l'Ancien Testament. Un prédicateur chrétien, pensez-y. Il a dit, l'Ancien Testament est mort. Il n'est plus. Oh non, oh non. Ce n'est qu'un maître d'école qui nous montre ce qui est écrit sur la muraille. Voyez, c'est vrai. Maintenant, vous voyez, cela a été éprouvé pendant 14 jours. C'était Christ. Maintenant, remarquez, on le tuait au temps du soir. Il devait être tué, l'agneau. Christ est mort au temps du soir, dans l'après-midi. Et puis remarquez, il était aussi... Le sang devait être mis sur les poteaux de la porte, voyez. Et le sang est la vie de l'animal. Tu mangeras la chair, mais le sang qui est la vie, tu le déverseras. Voyez. Il devait être, le sang devait être mis sur le linteau de la porte de la maison dans laquelle le sacrifice avait été accepté. Gloire! Qu'est-ce que la vie? Le nom? Ce, il a placé le nom de la personne. Vous allez à la porte et vous regardez pour voir quel est le nom sur la porte avant de sonner. Voyez? Le sang a été mis sur le linteau de la porte pour servir de type, pour représenter ce que le sacrifice était à l'intérieur. Maintenant, nous allons trouver le lieu d'adoration, justement là, passant par ce sang. Remarquez, le sang sur la porte annonçait le nom de ce qui allait, ce qui était à l'intérieur. Ils étaient là, notre lieu d'adoration, l'agneau, c'est la parole. Nous savons cela. Maintenant, le verset 4, remarquez, ne laissez pas de pain. Ne laissez rien du sacrifice, ou n'en prenez pas un d'un âge à un autre. Vous essayez de retourner en arrière et vous dites, « Eh bien, maintenant, nous sommes luthériens, nous voulons venir ici. Vous devez mourir à l'âge luthérien pour naître dans celui de Wesley. Vous devez mourir à l'âge de Wesley pour naître dans l'âge pentecôtiste. » Et vous devez mourir à l'âge pentecôtiste, ne rien en laisser, le brûler, parce que ce sera brûlé comme la tige d'où sort le blé. La tige, la dénomination, il faut que ce soit brûlé. Donc, n'apportez pas votre dénomination dans le nouveau message. C'est la parole maintenant. C'est ce qui a formé la dénomination. La tige, elle l'a portée, c'est vrai. Mais elle est sortie et est arrivée jusqu'ici. Puis, la tige est morte. C'était un porteur, la dénomination. Mais la parole continue à avancer. Oui, la parole continue à avancer. Prenez maintenant les versets 5 et 6. Remarquez, pas maintenant, prenons les versets 5 et 6. Tu ne pourras pas sacrifier la Pâque dans l'une des portes que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Maintenant, souvenez-vous, pas dans l'une de ces portes. Le Seigneur vous permet d'avoir ces dénominations, voyez, ces portes. Mais c'est dans le lieu que choisira l'Éternel, Dieu, pour y faire résider son nom. C'est la porte, le seul lieu, pas dans l'une de ces portes. Mais Dieu a une porte. Vous dites, chaque matin, j'entre par la porte méthodiste. c'est l'Église. Chaque matin, j'entre par la porte catholique. Oui, eh bien, le Seigneur laisse son peuple entrer et sortir par ces portes-là. Dieu a des enfants dans l'Église catholique, l'Église méthodiste, l'Église presbytérienne, dans chacune d'elles, les pentecôtistes. Bien sûr, mais ne, vous n'adorez pas le Seigneur dans cette porte. Voyez, mais le Seigneur a une porte précise. Gloire, il a une porte. Mais c'est dans le lieu que choisit l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom que tu sacrifieras la Pâque le soir. Quand Rebecca a-t-elle trouvé Isaac? Quand Eliezer l'a-t-elle appelé pour être l'épouse? Au temps du soir.
You will surely find in that waterway is a light today buried in the precious name of Jesus. Amen. Young and old, repent of all your sins. The Holy Ghost will surely enter in. The evening lights have come. It is a fact that God and Christ are one. That
was Ça a été le début de cela. Maintenant, elle s'est fondue dans la lumière de l'épouse. Vous voyez ce que je veux dire? Je ferais mieux de terminer ici, puis continuer ce soir, parce que je ne veux pas que vous manquiez ceci, voyez-vous? Non, non, c'est l'heure du dîner. Eh bien, j'ai trop de notes inscrites ici. Oh là là! Que pensez-vous de ce soir? Est-ce que ce serait mieux? Hein? Eh bien, si vous voulez essayer d'aller un peu plus loin? Très bien. Allons un peu plus loin alors. Nous allons nous dépêcher. Ça va? Maintenant, entrez par la quoi? Tu ne pourras pas entrer par l'une des portes que l'Éternel ton Dieu te donne, mais à la porte que l'Éternel aura choisie pour y mettre son nom. Non pas entrer dans la maison par l'entrée, c'est-à-dire la porte, n'est-ce pas? Dieu mettra son nom à la porte et vous ne... C'est la porte, l'entrée dans le lieu d'adoration, le sanctuaire. Vous n'entrez pas là avec votre sacrifice par l'une de ces portes, mais par la porte que le Seigneur Dieu choisit pour y mettre son nom. Voyez? Maintenant, a-t-il fait cela? Où est cette porte? Dans Jean 10, Jésus a dit, « Je suis la porte, l'entrée. » Je suis la porte de la maison de Dieu. Je suis la porte de la bergerie. Pas de l'enclos des boucs, de la bergerie. Voyez, je suis la porte de la bergerie. Un homme peut entrer par cette porte et être en sécurité. Et maintenant, nous pourrions nous attarder longtemps là-dessus. Mais pour gagner du temps, il est la porte de cette bergerie. Maintenant, nous voulons remarquer ici, les ombres et les types sont vraiment évidents ici. Mais si je prends cette page, ça va vous retenir pendant un bout de temps. Très bien, remarquez, cela met parfaitement en lumière Jésus-Christ. Car tout l'Ancien Testament est un type de lui. Toutes les fêtes, toutes les adorations et tout. Et j'ai écrit ici, sous ces passages des Écritures, explique-le. C'est là que ça prendrait beaucoup de temps. Expliquer comment toutes les fêtes, même l'offrande de farine, était un type de Christ. Prenons juste celui-là. Une fois, il y avait une école appelée l'école des ministres ou l'école des prophètes. Ils formaient, instruisaient des prophètes. Et une fois, un véritable prophète appelé de Dieu est allé leur rendre visite. Eh bien, il voulait faire preuve de courtoisie envers ce vieux prophète. Alors l'un d'eux est sorti et a ramassé une grande quantité de ce qu'il pensait être des pois. Mais c'était des coloquintes vénéneuses. Et il allait tous leur offrir cela à manger. Oh, combien de plats de séminaire nous avons eus. Voyez, c'est vrai. Ils mijotent quelque chose. Voyez, ils ont des plats méthodistes, des plats baptistes, des plats pentecôtistes. Mais vous voyez, ils sont de la deuxième croissance, le genre qui peut être émondé de l'arbre. Voyez, ils ne font pas partie du cep principal. Ils portent des citrons des pamplemousses et ainsi de suite. Pas d'orange, mais ils prétendent être des agrumes. Remarquez encore, maintenant là-dessus, quand Élie est arrivé et les a regardés et qu'il a vu qu'il s'agissait de coloquintes vénéneuses et que ça allait tous les tuer, ils ont dit, « Hélas, la mort est dans le pot. » Il a dit, « Apportez-moi une poignée de farine. » Il a jeté la farine dans le pot et a dit, « Maintenant, ça va, mangez ce que vous voulez. » Elle a transformé la mort en vie. Et l'offrande de farine qui a été donnée à Christ, il était l'offrande de farine. Et l'offrande de farine doit être broyée avec une certaine meule, de sorte que chaque petite parcelle de farine soit pareille. Ce qui montre qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est la chose même que vous devez mettre dans votre dénomination. Et elle vivra. La parole. Christ est la parole. Ce sont tous des types. Le tabernacle, le pain de proposition, tout. Le pain cachère, rompu sur le plateau, était son corps brisé. Mais les Juifs ne peuvent pas encore expliquer pourquoi ils le font. Voyez, toutes ces autres choses étaient des types de lui. Maintenant, alors, lui ayant été mis en lumière, nous voyons maintenant toutes les dénominations et les credos laissés derrière. Car il est la pure parole immuable de Dieu, qui est le pain sans levain. Jean 1, c'est vrai, il est le pain sans levain. Donc, si vous ajoutez ceci ou ajoutez cela, c'est du levain qui est ajouté à ce qui vous a déjà été donné à l'origine. Remarquez ceci. Qu'est-ce qui tue la race aujourd'hui? Ils prennent les choses et les hybrident. Et quand vous hybridez la chose, vous la tuez. Oh, cela a l'air plus joli. Bien sûr, le maïs hybride, les flocons de maïs, toutes les autres céréales qui viennent du maïs. Le maïs hybride, grand, gros, de belles tiges longues, avec de grands épis, ayant l'air deux fois mieux que l'autre. Mais c'est la mort. La science l'a même découvert. Voyez, ne les croisez pas, ça va vous tuer. Maintenant, ici, laissez-moi vous montrer. L'autre jour, j'arrosais des fleurs dans ma cour, et la dame avait des fleurs hybrides qui étaient dans un petit pot là, ou la petite plate-bande sur le côté de la maison. Nous devons arroser ces choses au moins trois fois par semaine, ou quatre, sinon elles vont mourir. Et là-bas, dans la cour, il y a la plante originale. Il n'a pas plu là depuis 6 mois. Tout est sec. S'il pleut, après 10 minutes, on peut voir la poussière se lever. Mais cette petite plante-là était plus jolie et plus lumineuse que l'hybride l'était avec toute cette eau. Vous omettez de l'arroser, elle va mourir. Mais d'où tire-t-elle son eau? Et une autre chose, vous devez les vaporiser chaque 1 ou 2 jours pour garder les insectes éloignés. Sinon, les insectes vont la manger. Elle est si tendre et si douce. Mais aucun insecte ne touchera cette plante originale. Non, non. Il va grimper sur elle et s'en éloigner. Elle est l'originale. Voyez-vous ce que l'hybridation a fait? C'est la même chose dans l'Église. Ils essayent de mélanger la dénomination avec la parole. Pour faire leur, essayent de faire dire à la parole ce que la dénomination dit. Et quand vous faites ça, vous devez les vaporiser, les dorloter et leur donner des étoiles dorées pour venir à l'école du dimanche et tout le reste. C'est vrai, quand un véritable chrétien est né de nouveau, né de la parole de Dieu, il est robuste. C'est vous. Les insectes et les choses du monde ne le dérangent pas. Il est un aigle. Il s'envole bien au-delà de cela. Voyez, il plane dans les cieux. Voyez, c'est vrai, rien. Remarquez, maintenant nous devons comprendre qu'ici, la dénomination, les credos et tout ce qu'on ajoute au pain levé ne peut pas être mélangé au pain sans levain. Et la Bible préfigure ici, dans le sacrement, entrer dans l'adoration, qu'aucun levain ne peut entrer avec vous et que Dieu puisse le recevoir. Vous dites, je suis méthodiste, à l'instant même, vous mourrez. Je suis pentecôtiste, vous mourrez. Je suis de Christ, c'est vrai. Vous devez vous appuyer sur quelque chose, c'est vrai. Vous vous appuyez sur quelque chose. Churchill a dit une fois, il a levé 2 doigts et a dit, « Nous avons la victoire !» Et l'Angleterre s'est appuyée sur ça. Ils ont cru, Churchill.
Et croyez-le ou non, ce matin, vous vous appuyez sur quelque chose. Il n'y a qu'une seule chose dont vous pouvez vivre et sur laquelle vous pouvez vous appuyer. C'est Christ, la parole. C'est vrai. Remarquez, il n'y a rien d'autre dans la Bible qui soit un type des dénominations que Babylone. Babylone a été fondée par Nimrod. Et Nimrod était un renégat. Et il avait une bande de femmes là-dedans qui étaient censées être ses reines. Elles étaient prophétesses. Il y en a même qui pensent que le vieux Balaam vient de cette tendance-là. Ils avaient des racines et tout. Ils adoraient, vous savez, beaucoup d'entre vous, les érudits, qui avaient lu les deux Babylone d'Islop, et ainsi de suite, et l'histoire de l'Église, et les choses qu'ils faisaient. Ils avaient des femmes qui faisaient ceci, et des femmes, une déesse, et tout. Et c'était une religion forcée. Tout le monde, toutes les villes autour de Babylone, ils étaient obligés de venir à Babylone pour adorer à la tour, sous l'emprise de Nimrod. Voyez, c'est vrai. Ils étaient forcés de le faire à Babel. Voilà d'où vient la confusion. Et c'est exactement ce qu'est l'Église aujourd'hui. Si vous n'allez pas à l'école du dimanche, si vous ne faites pas ceci et qu'on doit vous engager pour faire ceci et faire cela, vous n'êtes même pas dans la course. Là-bas, à Tucson, où on est à l'écoute ce matin, je me demandais une fois, j'ai toujours contraint les gens, allez à l'Église, peu importe où vous allez. Et j'ai vu les gens se retirer, en quelque sorte, et aller dans cette direction-ci. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Je suis allé voir quelques-uns d'entre eux. Le premier jour que vous êtes là, ils vous approchent. Joignez-vous à notre église. Si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas le bienvenu. Voyez, voyez, c'est une chose forcée. On vous y contraint, voyez, et c'est Babylone. Mais en Christ, vous y venez par élection, non pas par la force. Votre cœur vous attire en lui. Dieu n'a pas mis son nom là, dans Babylone. Écoutez attentivement maintenant. Il ne peut pas mettre son nom dans Babylone. Les églises, oh, ils mettent son nom là-dedans. Mais lui ne l'a jamais fait. Non. Vous dites, eh bien maintenant, frère Branham, attendez, restez tranquille, juste un instant. Vous m'avez demandé de rester un peu plus longtemps. Ne voyez-vous pas? Maintenant, remarquez, ils mettent son nom là-dedans. Mais lui ne l'a pas fait. Maintenant, il a dit, le lieu où je vais vous rencontrer et recevoir votre sacrifice, c'est le lieu où j'ai choisi de mettre mon nom. Vous entrez par cette porte, la porte où j'ai choisi de mettre mon nom. C'est par là que vous entrez. Eh bien, ils ont affiché, ceci est l'Église de Christ. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette déclaration, c'est qu'ils ont oublié un mot, anti. Ah oui, tout ce qu'il a enseigné, ils sont en désaccord avec cela, des pharisiens contemporains. Mais nous devons trouver où il a mis son nom, car c'est dans cela que se trouve la seule porte qu'il a donnée. Amen. Gloire. Observez, où a-t-il mis son nom? Dans son Fils. Oh, dites-vous, maintenant, attendez un instant, frère Branham. C'était le Fils, pas le Père. Le Fils prend toujours le nom de son Père, dans tous les cas. Je suis venu sur cette terre avec le nom de Branham, parce que le nom de mon Père était Branham. Jésus a dit, « Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. » Vous voulez le passage de l'Écriture là-dessus? Jean 5, 43. Voyez, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Alors le Père a mis son propre nom, qui est Jésus, dans le Fils. Et il est le chemin, il est la porte, il est la maison, il est l'endroit où Dieu a choisi de mettre son nom. Dieu n'a jamais mis son nom en moi. Il ne l'a jamais mis dans l'Église. Il ne l'a jamais mis dans le méthodiste, le baptiste, le catholique. Mais il l'a mis en Christ, l'Emmanuel Oint. Et le nom est dans la parole, parce qu'il est la parole. Amen. Qu'est-il alors? La parole interprétée est la manifestation du nom de Dieu. Ce n'est pas étonnant. La chair et le sang ne t'ont pas révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Qui je suis? Et sur cette pierre, je bâtirai mon lieu d'adoration.
et les portes du séjour des morts ne peuvent le faire crouler. Amen. Ô Église vivante de Dieu, tenez-vous sur le fondement ferme de Jésus-Christ seul. Vous pouvez chanter le chant, mais si vous n'êtes pas fondé sur Christ, la parole, vous êtes chancelant sur des sables mouvants. Mais sur ce rocher, Christ, ma parole, il a bâti le message luthérien et ils en ont fait une dénomination. Le marchepied, il se développait. Ensuite, il s'est développé pour former la jambe, le méthodiste, et ainsi de suite. C'est là qu'il a bâti son église, sur sa parole. Or, il n'est pas seulement le pied ou la cuisse, il est un corps. Et maintenant, c'est la partie qui coiffe. Avez-vous remarqué dans les pyramides? Et là, je ne prêche pas une religion de la pyramide, maintenant. Mais la première Bible qui a jamais été écrite a été écrite dans le ciel, le Zohar. Avez-vous remarqué cela? Ça commence avec la Vierge, le premier signe du zodiaque. Le dernier signe est Léo, le lion. Il est venu premièrement par la Vierge. Il vient ensuite comme le lion de la tribu de Juda. Juste avant cela, un âge du cancer, un poisson croisé, tout le reste des âges. Si nous avions le temps de voir tout ça, nous avons ce temps au tabernacle. Et la pyramide étend ses fondations, jusque là-haut dans la chambre du roi. Et juste avant d'atteindre le septième mur, il y a là une petite plateforme de présentation où un messager s'avance pour vous conduire au roi. Le messager, Jean-Baptiste, y présentait au roi. Mais la pierre principale a été rejetée. Et on ne sait pas, la pierre de Scone ou quoi que soit la chose. On ne sait pas où elle est, parce que c'est une pierre rejetée. Mais c'est la pierre qui coiffe le tout, qui en fait la pyramide, à travers les sept âges de l'Église en entier. Ajoutez la grâce, ajoutez ceci. Il y a sept choses à ajouter, et la dernière est Christ. Ajoutez ceci à votre charité, ajoutez la grâce, à votre grâce, ajoutez autre chose, puis autre chose, jusqu'à ce que vous arriviez à Christ, qui est la pierre principale, et je suis la porte. Maintenant, un fils vient toujours au nom de son Père. Tout fils vient au nom de son Père. Et Jésus a dit, « Je suis venu au nom de mon Père. » Alors, quel est le nom du Père? Quel est le nom du Fils? Puis il a dit, « Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, me verrez. » Il vient sous la forme du Saint-Esprit, dont le nom est Jésus. C'était la raison pour laquelle ils adoraient. « Ô Jésus !» Voyez, Père, Fils et Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est tout. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne m'avez pas reçu. Maintenant, souvenez-vous, il a également ajouté ceci et nous mettons garde. Un autre viendra. Une dénomination, un credo. Ils viendront en leur nom et vous les recevrez. Vous ne me recevrez pas. La parole confirmée est prouvée devant vous. Comme il avait raison alors, il a raison aujourd'hui. Ne manquez pas ça, vous, partout dans la nation. Un autre viendra, une église, et vous croirez cela, parce que vous pouvez agir de n'importe quelle manière. Je ne la confirmerai pas. Il n'a jamais, en aucun temps, jamais, confirmé quoi que ce soit dans une église, en dehors du message qui était donné. Luther, la justification. Wesley, la sanctification. Le pentecôtisme, la restauration des dons. Ensuite, aussitôt qu'ils en ont fait une dénomination, là, c'est mort. Sondez les Écritures. Mais il a dit, « Je choisirai le lieu pour mettre mon nom. » Et le nom était Jésus. Et Jésus est la parole. Jean 1. Pas vrai? C'est le lieu d'adoration, en Christ, la parole. Je suis venu au nom de mon Père. Le prophète a dit, on lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est Matthieu 1, 23, si vous voulez le noter. Jésus, Jéhovah, le Sauveur. Eh bien, le verset 5 montre qu'il est la porte. Maintenant, beaucoup d'autres preuves invisibles. Cette porte, ce nom et ce lieu, on peut prouver qu'il n'y a qu'un seul lieu où Dieu rencontre l'homme pour l'adoration. Et c'est quand il est en Christ. Bon, maintenant la question est celle-ci. Comment entrons-nous en lui? Maintenant, ceci piquera peut-être un peu. Mais vous savez, c'est comme quand on prend des médicaments. Si ça ne vous rend pas malade, ça ne vous fait aucun bien. Voyez? Maintenant, les luthériens voulaient entrer d'une manière, en adhérant à l'église luthérienne. Le méthodiste voulait entrer en poussant des cris. Les pentecôtistes voulaient entrer en parlant langue. Ce n'est pas encore ça, voyez. Non, ça, ce sont des dons, et ainsi de suite. Mais 1 Corinthiens 12 dit, « Par un seul esprit, l'esprit de Dieu, qui est celui qui donne la vie à la parole, la semence, pour confirmer cette semence pour cette saison. » Voyez, voici la semence de l'âge méthodiste qui était là. Il fallait le Saint-Esprit pour amener cette semence à la vie et pour purifier l'Église par la sanctification. Luther n'a pas prêché ça, parce qu'il ne connaissait pas ça. Les pentecôtistes voulaient parler en langue pour la restauration des dons. Chacun déclare, c'est ça, voyez. Mais par un seul esprit, nous sommes tous baptisés dans un seul corps. Et ce corps est une famille, la famille de Dieu. Et c'est la maison de Dieu. Et la maison de Dieu est le nom de Jésus-Christ. Le nom du Seigneur est une tour forte. Les justes s'y réfugient et sont en sécurité. Maintenant, comment allez-vous y entrer par un titre? Comment votre chèque sera-t-il accepté en disant « Payé à l'ordre du révérend, docteur, ministre ?» Voyez, voyez, vous pouvez être un révérend, un docteur, un ministre, mais le nom du Seigneur est Jésus-Christ. Voyez, j'ai choisi de mettre mon nom à la porte de la maison de mon adoration, car ma famille sera rassemblée là, à l'intérieur, sous le sang, comme il en était en Égypte. Tout ce qui était à l'extérieur est mort. Et là, il n'y a aucun pain levé. Il n'y a aucun mélange dénominationnel. En cela, nulle part. Ma maison, mes enfants, nés de mes gènes. Amen. Gloire à Dieu. Mes gènes sont en eux. J'ai mis ma parole en eux. Je les écrirai sur les tables de leur cœur. C'est ma famille, la famille du corps de Jésus-Christ, la famille. C'est par cette porte que vous entrerez, pas méthodiste, baptiste ou pentecôtiste, mais par la porte où j'ai mis mon nom. Ce n'est pas méthodiste. Le nom de Dieu n'est pas méthodiste. Le nom de Dieu n'est pas pentecôtiste. Le nom de Dieu n'est pas baptiste. Le nom de Dieu n'est pas catholique. Restez en dehors des portes alors. Voyez, voyez, voyez. Mais dans un lieu où j'ai choisi de mettre mon nom. Or, il n'y a pas un autre lieu dans la Bible où Dieu ait mis son nom, seulement en Jésus-Christ. Car il est le Fils de Dieu qui prend le nom de Dieu, le nom humain de Dieu. Et il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel vous deviez être sauvés. Peu m'importe, méthodiste, baptiste, presbytérien, catéchisme ou quoi que vous vouliez faire, c'est seulement au nom de Jésus-Christ que tout genou fléchira et que toute langue confessera qu'il est Seigneur. Voilà comment vous entrez. Et si vous êtes simplement baptisé dans l'eau correctement, ensuite vous niez la parole, alors vous êtes illégitime. Votre naissance n'était pas celle qu'il faut. Vous prétendiez croire en lui. Mais vous le reniez. Comment pourrais-je renier ma famille? Comment pourrais-je nier que Charles Branham est mon père? Un test sanguin sur la porte l'indique. Oui, mes actions et la confirmation de la parole de Dieu dans ma vie. Voilà ce qui indique si je suis un enfant de Dieu ou non. Maintenant, voilà le seul lieu de Dieu. Vous le voyez? Le seul lieu où Dieu recevra votre sacrifice, peu m'importe combien vous êtes sincère, c'est en Christ. Et rappelez-vous, vous dites, « Eh bien, j'ai cru, je suis aussi entré. » Rappelez-vous, la Bible dit, vous dites, « Eh bien, la Bible a dit, quiconque croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu est sauvé, sera sauvé. » Elle dit ça, mais souvenez-vous, il est aussi écrit, il est aussi écrit. Nul ne peut appeler Jésus le Christ si ce n'est par le Saint-Esprit. Voyez ? Vous pourriez dire, il l'est, mais il ne l'est pas avant que le Saint-Esprit même, qui donne la vie à la parole, le prouve en confirmant que vous êtes le Fils de Dieu. Ça, c'est l'Écriture. Le lieu que j'ai choisi pour mettre mon nom, vous l'adorerez dans aucune autre porte, sauf dans la porte où j'ai mis mon nom. Alors, je vous accueillerai. Vous êtes dans ma famille. Or, la famille de Dieu obéit à l'ordre du Père de la famille. Il est le Prince de la paix, le Dieu puissant, le Père éternel. Et son empire et son règne n'auront pas de fin. Le gouvernement reposera sur ses épaules. Et lui étant le gouverneur, le roi Emmanuel, le premier, le dernier, le Prince de la paix, le Dieu puissant, le Père éternel. Tous ses enfants obéissent à chaque parole à la lettre, parce qu'ils sont une partie de lui. Nous vivons dans notre maison comme les Branham vivent. Les Jones, vous vivez dans votre maison comme les Jones vivent. Et dans la maison de Dieu, nous vivons de la parole de Dieu et de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et n'importe qui d'autre, un imposteur, nous ne l'écouterons pas. Voyez, vous mangerez du pain sans levain dans chaque âge de l'Église, au fur et à mesure que je vous le donne. Mais n'essayez pas de revenir en arrière et d'injecter ces choses dans ceci, parce que c'est devenu une tige. Vous prendrez les os et ce qui reste du sacrifice, et vous les brûlerez. Disparu. L'âge de l'Église est mort. Cela a continué. Nous sommes dans un autre âge maintenant. Amen. Le lieu que moi, j'ai choisi pour y mettre mon nom. Oh là là, 1 Corinthiens 12. Remarquez. Éphésiens 4, 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu'au prochain réveil, jusqu'au jour de votre rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Maintenant, remarquez, appliquons cela à notre leçon sur les Écritures. Ensuite, nous ferions mieux de partir. Je pense que je fatigue les gens. Voyez, dites, les gens se lèvent et rentrent à la maison, voyez-vous, car le repas du dîner est en train de cuire. Elles veulent rencontrer quelqu'un. Ils ne s'attendaient pas à venir ici pour écouter ceci toute la journée. Voyez, mais voyez, vous savez, Ben, oh, je dois faire quelque chose avec toi. Dieu te bénisse. Merci, frère Ben. Je t'aime, frère Ben. Si vous saviez ce que ce garçon a souffert pour nous dans cette guerre, il était criblé de balles, a souffert d'explosions et toutes sortes de choses. Il en a vu de toutes les couleurs, mais Dieu l'a béni. Il est resté fidèle. Sa femme l'a quitté, s'est enfuie et s'est remariée, et elle a pris ses enfants. Oh là là, c'est difficile d'y penser. Mais de toute façon, que Dieu te bénisse, Ben. Il est ici présent, rempli d'éclats d'obus qui font pression sur ses nerfs et tout le reste. Alors, vous devez connaître le contexte des choses, voyez-vous. Que Dieu bénisse ce garçon, oui, par lequel vous avez été scellé jusqu'au jour de votre rédemption. Remarquez, maintenant ceci piquera peut-être un tout petit peu, mais remarquez, ne vous fâchez pas contre moi. Rappelez-vous simplement, une fois qu'Israël a regardé sur cette porte, avec ce sang sur la porte, le nom, le sang, la vie, et qu'ils sont entrés sous le sang, ils ne sont jamais ressortis avant leur sortie d'Égypte. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous êtes entrés et par lequel vous ne sortirez plus jusqu'au jour où vous serez rachetés. Voyez ? Vous savez, la Bible a toujours raison. Il a mis des paroles là-dedans. Vous devez les placer là où elles vont pour les faire, pour faire le tableau complet de la rédemption. Voyez, voyez, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellé jusqu'à votre rédemption, jusqu'à ce que vous soyez racheté. Vous êtes scellé à l'intérieur. Vous êtes sous le sang. Vous n'en sortez plus. Et alors, qu'êtes-vous? Un fils de Dieu, dont la famille de Dieu, scellé à l'intérieur par le Saint-Esprit. Le diable ne pourrait même pas vous atteindre s'il le devait, car vous êtes mort. Votre ancien mari est mort. Vous êtes enseveli et votre vie est cachée en Dieu par Christ et scellée par le Saint-Esprit. Voyez ? Comment peut-il vous atteindre ? Comment pouvez-vous en sortir ? Vous êtes là, loin. Maintenant, je vais laisser ça de côté. C'est juste assez pour que vous sachiez de quoi je parle. Puis, vous êtes une nouvelle création, pas de la dénomination, mais de la parole. Vous êtes une création de la parole, parce que la pierre de fondation était posée en vous avant la fondation du monde, prédestinée à être des fils et des filles de Dieu. Et sur cela viennent pierre sur pierre, dans chaque âge, pour confirmer cette parole qui se développe, exactement comme Jésus l'a fait dans son âge, lui qui est la pierre de fait de tout cela. Tous les âges se trouvent en lui. Moïse était en Jésus, David était en Jésus, les prophètes étaient en Jésus, pas vrai? Regardez Joseph, vendu pour environ 30 pièces d'argent, jeté dans une fosse, censé être mort, en a été sorti et a été placé à la droite de Pharaon. Regardez exactement, Jésus était, Joseph était en Jésus. Et quand il est venu, il était la plénitude des rois, des prophètes. Alléluia! La divinité habitait corporellement en lui. Il est venu pour en racheter une épouse, un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre qui dit à Satan que, lorsqu'il dit « Les jours des miracles sont passés, ces choses dont tu parles n'existent pas. Arrière de moi, Satan !» Voyez, voyez, un chef-d'œuvre qui prend garde. Un jour, la pierre de fête reviendra, le chef de tout cela, et il prendra l'épouse avec lui. C'est pourquoi la femme a été prise de l'homme, une partie de l'homme. Chaque, les gènes de l'homme sont de la femme. C'est ce qui fait la femme. Et c'est ainsi que la parole de Dieu est dans l'Église. Ce qui fait de l'Église l'épouse, pas une dénomination. Ça, c'est du diable, chacune d'entre elles. Je ne dis pas cela des gens qui sont dans ces dénominations. Ce sont de pauvres gens séduits, comme Jésus l'a dit. Les aveugles conduisent des aveugles. Et ils ne pouvaient pas les appeler à sortir. Ils ont dit, « Eh bien, tu es né de la fornication. Qui te dit que les gens viendront vers toi ? Quelle école ? Quel séminaire t'a reconnu ? » Ils ont dit, « Nous avons Moïse. Nous sommes. » Il a dit, « Si vous aviez connu Moïse, vous m'auriez connu. » Parce que Moïse a écrit à son sujet dans ses quatre livres, « Le Seigneur ton Dieu suscitera un dispensateur de la parole, ou un prophète comme moi, et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera retranché du milieu du peuple. » Voilà tout ce qu'il en est. Et qui est-il ? La parole. Et qu'est-ce qu'elle est ? Ne laissez aucun levain dans votre, n'y mettez simplement aucun levain, n'ajoutez aucun credo, aucune dénomination, car ce sera souillé sur le coup, votre sacrifice sera ruiné. Dépêchons-nous maintenant, rapidement, pour que vous puissiez aller manger. Remarquez, maintenant donc, vous êtes un fils de Dieu, dans la maison de Dieu. Vous êtes une partie de l'économie de Dieu. Romains 8:1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car ils sont morts au monde, vivant en lui et vivant dans ce jour-ci, rendant la parole pour laquelle Dieu les a utilisés ou à laquelle il les a prédestinés en plaçant leur nom dans ce livre de l'épouse. Et lorsque les eaux arrosent cette semence qui est dans le cœur, elles la font croître jusqu'à devenir l'épouse de Christ. Oh là là, c'est tout aussi parfait que ça peut l'être. Dans tous les âges, il en a été ainsi. Les luthériens, sous la justification, les pieds, il a pris naissance comme ça. Wesley, sous la sanctification, les pentecôtistes, le stade des bras, les œuvres, les actions, et ainsi de suite. Ils étaient forcément des calvinistes, ou ils étaient forcément des arminiens, forcément des légalistes. Mais maintenant, nous arrivons à la tête, la pierre de fête. Grâce, grâce. C'est écrié, la pierre de fête. La pierre principale a crié quoi ? Grâce, grâce, passer de la mort et des credos à la parole vivante du Dieu vivant. Le seul plan pourvu par Dieu pour son âge, ses fils dans l'âge de la parole, qui sont vivifiés par l'Esprit, comme une étincelle qui est allumée par quelque chose pour la rendre vivante, est assis maintenant dans les lieux célestes, au temps présent, déjà vivant, et ayant accès à toutes les promesses de la parole. Alors, qu'est-ce que ça fait? Vous, étant une partie du gène de Dieu, une partie de la parole, d'autres hommes étant une partie de la parole de Dieu, assis ensemble, vous manifestez le corps entier de Christ, parce qu'il n'y a aucun levain au milieu de vous. Vous voyez de quoi il parle, frère Brown? Aucun levain au milieu de vous, seulement la parole. Assis dans les lieux célestes, dans la porte où l'a mis son nom, Jésus-Christ. Aucun levain au milieu de vous, ce qui amène toute la plénitude de la divinité corporellement parmi vous. Cela ne pouvait pas arriver dans l'âge de Luther. Ça ne pouvait pas arriver dans l'âge de Wesley. Ça ne pouvait pas arriver dans l'âge pentecôtiste. Mais au jour où le Fils de l'homme sera manifesté, révélé, qu'il aura uni l'Église de nouveau avec la divinité entière de Dieu parmi son peuple, opérant les mêmes signes visibles, se manifestant comme il l'a fait au commencement, quand il s'est manifesté sur la terre sous la forme d'un Dieu prophète. Oh, gloire, promis par Malachi 4, promis par le reste des Écritures. À quel endroit adorez-vous? La maison de Dieu, assis au temps présent. Là, rapidement, regardons très vite maintenant, et nous partirons dans 10 minutes, nous serons partis, si le Seigneur le veut. Maintenant, considérons-en quelques-uns qui ont été vivifiés dans cette maison de Dieu, dans leur âge. Enoch, dans 10 minutes, nous allons partir. Si vous pouvez patienter encore jusque-là, regardez, Enoch était la parole vivante de Dieu de son âge. Il était un prophète. Un prophète est un réflecteur. Il reflète Dieu. Combien savent cela? Le réflecteur ne se reflète pas lui-même. Le réflecteur n'est pas le reflet. Il doit y avoir quelque chose qui frappe le réflecteur, pour qu'il produise un reflet. Ainsi, un prophète est un vase choisi par Dieu, qui ne peut refléter rien du tout. Mais il est en ligne directe avec ce reflet, Dieu, afin de refléter l'image de Christ, la parole. Voyez, rien d'autre ne peut le faire. Vous êtes un réflecteur. C'est la raison pour laquelle le prophète devait avaler le livre. C'est la raison pour laquelle il a dû avaler le rouleau. Il devait refléter cette parole pour cet âge. Vous avez saisi? Remarquez, Enoch, le réflecteur parfait de Dieu en type. Lorsque Dieu en a eu terminé avec lui, il l'a simplement enlevé, il l'a fait monter. La mécanique qu'il avait reflétée est devenue, avec l'esprit, la dynamique, et l'a fait monter. Il en était de même du temps d'Élie. Élie, même jusque dans ses os, où se reflète, il a reflété Dieu dans son corps. La parole de Dieu s'est manifestée. Ils ont déposé un homme mort sur cela, et ce dernier est revenu à la vie. Nous sommes sa chair et ses os, aussi longtemps que nous sommes l'épouse de Christ. Croyez-vous ça? Très bien. Il est mort pour nous, et nous sommes morts à nous-mêmes, et nous sommes ensevelis en son nom, afin que nous ne soyons plus du monde, mais en lui, duquel toute famille dans les cieux tire le nom, celui de Jésus-Christ. C'est Éphésiens 1, 21. Car les deux dans les cieux, la famille dans les cieux, quel est le nom de la famille dans les cieux? Jésus. Quel est le nom de la famille sur la terre? Eh bien, c'est la maison de Dieu où se trouve le sang, pas vrai? C'est la porte, c'est l'entrée, c'est le lieu où il a mis son nom. La parole a été faite chair et a habité parmi nous. C'est la parole qui se reflète et qui enflamme l'âge dans lequel vous vivez. C'est ce qu'il était, c'est ce que Moïse était, c'est ce que Jacob était, c'est ce que tous les autres étaient. Ils enflammaient cette parole de Dieu, le réflecteur par lequel Dieu se reflétait lui-même. Et nous arrivons à cette image parfaite de Dieu, Jésus-Christ, le chef-d'œuvre de Dieu, qui a été frappé pour qu'il puisse prendre les autres, ceux qui ont été des réflecteurs, pour former une épouse. Moïse était en lui, Josué était en lui, et si vous êtes en lui, vous étiez en lui avant la fondation du monde, la famille de Dieu. Vous avez souffert avec lui, vous êtes mort avec lui, vous êtes allé à la croix avec lui, vous êtes ressuscité avec lui, et maintenant, vous êtes encore avec lui, assis dans les lieux célestes. Reflétons le message de l'âge au monde, la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Mais si elle est cachée par un panier dénominationnel, comment pourront-ils la voir? Par vos traditions, vous rendez la lumière sans effet en essayant, vous, les dénominations, qui essayez de garder la lumière loin de votre Église. Vous n'entrerez pas et vous ne les laisserez pas entrer non plus. Amen. Arrêtons-nous maintenant. Oh, j'en ai trop ici. Nous pourrions continuer. Oh là là, il nous reste 5 minutes. Vous voyez qui est la porte? Où Dieu a-t-il mis son nom? En Jésus. Comment entrez-vous en son nom? Comment y entrez-vous? En y étant baptisé. Comment? Par l'eau? Par l'Esprit. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. C'est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême d'eau vous met seulement en communion avec les gens, car vous avez reconnu que vous avez accepté Christ. C'est la vérité. Mais là, on parle du baptême de l'Esprit. Je peux invoquer le nom de Jésus sur vous et vous baptiser. Cela ne veut pas dire que ça fera l'affaire. Mais une fois que le véritable Saint-Esprit, la parole authentique, entre en vous, la parole, Jésus, alors là, frère, le message n'est plus un secret pour vous à ce moment-là. Vous le connaissez, frère. Il devient complètement clair devant vous. Alléluia! Que Dieu soit loué! Amen!
I love you.
Cher Dieu, je te prie de guérir ces gens, Seigneur, et de rétablir chacun d'eux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, l'amour! Oh, depuis que par la foi j'aperçois ce flot coulant de tes blessures, de ce chef-d'œuvre, l'amour qui m'a racheté a été mon thème. Comment pouvez-vous? Dieu est amour. Celui qui aime est de Dieu. L'amour divin, saint, pas un amour souillé, l'amour sans tache, pur et saint, l'amour de Dieu, la parole. Je serre tes lois dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Oh là là, c'était le cri de David. N'est-il pas merveilleux? Ne l'aimez-vous pas? Maintenant, il y a une voie pure, sainte, un seul lieu de rencontre où Dieu vous rencontrera. Non pas parce que vous dites, Dieu, maintenant, je suis un bon méthodiste. Je suis un bon baptiste, je suis un bon pentecôtiste. Non, c'est parce que vous êtes en Jésus, la parole, la partie de la parole qui est en train de se manifester aujourd'hui, le message de ce jour-ci, pas celui de Luther, de Wesley, du pentecôtisme, mais votre Jésus, le reflet qui est venu en ceci. Vous ne pouvez pas retourner à cela, ce serait d'ajouter du levain à votre pain sacré, qui dit... L'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu dans sa saison. Oh, viens, Seigneur Jésus, la grande pierre principale. Regardez ce qui repose là-bas, la poussière de ces luthériens qui sont morts en martyrs. Regardez ces méthodistes, ces pentecôtistes et tout, qui se présentent maintenant, cette lignée authentique qui est sortie. Vous, les assemblées de Dieu, vous avez formé une organisation, la chose même dont Dieu vous a fait sortir. Vous y êtes retourné tout droit comme un cochon à son bourbier. Vous, les unitaires, l'Église unie, l'ancien JC de les assemblées pentecôtistes de Jésus-Christ, une pour les gens de couleur, et vous vous êtes séparés à cause de la ségrégation. Vous qui avez fait cela, puis vous vous êtes unis et l'avez appelé l'Église unie. Puis, vous vous êtes organisé et vous avez cherché querelle aux assemblées, comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi. Si le vomi a rendu le chien malade la première fois, cela ne le rendra-t-il pas malade de nouveau? Changez votre alimentation de votre dénomination à la parole et vivez avec Christ. Honte à vous!
I've got a father over yonder. I've got a father over yonder. other shore. Some bright day I'll go and see him. Some bright day I'll go and see him. Some bright day I'll go and see him. On the other shore. Oh, won't that be a happy meeting? Won't that, word goes to word, the meeting. When the bride goes up, word by word, the meeting. On the other shore. Oh, that bright day may be tomorrow. That bright day may be tomorrow. That bright day may be tomorrow. On the other shore.
Vous dites, vous en êtes sûr, frère Branham? Oui, monsieur. Lorsque les luthériens de cet âge-là, ceux de Wesley dans leur âge, les pentecôtistes dans leur âge, les véritables, pas les dénominationnels, les pentecôtistes, ceux qui ont ajouté du levain, leur dénomination, sont morts. Mais cette véritable parole continue d'avancer, voyez? Tout comme Jésus l'a dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, que le Père est en moi, moi en vous, et vous en moi. Tout ça, c'est la parole. Bon, Église, nous donnons un enseignement maintenant. Mais souvenez-vous, quand vous partirez d'ici, commencez à sortir de la balle maintenant. Vous allez dans le grain, mais restez dans la présence du Fils. N'ajoutez rien à ce que j'ai dit, ne retranchez rien de ce que j'ai dit, parce que je dis la vérité, ce que j'en sais, comme le Père me l'a donné. Voyez, n'ajoutez rien, dites simplement ce que j'ai dit. Voici ce qu'il en est, dites seulement aux gens de venir chercher le Seigneur Jésus. Et puis vous-même, restez dans sa présence, exprimez-lui simplement votre amour. Ô Seigneur Jésus, Fils de Dieu, je t'aime, attendris mon cœur, Seigneur. Enlève toute la souillure et l'amour du monde et permets que je vive sanctifié dans ce monde présent devant toi, courbant la tête pour la prière. Maintenant, voyons voir. Avons-nous choisi quelqu'un pour terminer la réunion par la prière? Ou je vais le faire alors. Soyez vraiment respectueux. Cher Dieu, nous te remercions de ce que nous avons eu notre repas spirituel. Nous te remercions, Seigneur, parce que la vitamine de la parole fait grandir les fils de Dieu. Cela n'a d'effet sur aucune autre catégorie de personnes, seulement sur les fils et les filles de Dieu. Alors, nous te remercions pour cela. Et nous prions, Dieu, afin que nous en bénéficions, non pas seulement t'en remercier, nous te remercions pour cela, mais puissions-nous utiliser la force pour essayer de, par l'amour, persuader les gens de croire en notre Dieu. Les rebelles, les pécheurs, les femmes, les hommes, les garçons, les filles, dans cet âge. Seigneur, en voyant l'état mental, l'âge nerveux dans lequel les gens vivent, cela leur fait perdre la raison, afin d'accomplir exactement ce que l'Écriture a dit et promis. Les grandes choses hideuses qui viendraient sur la terre, comme des sauterelles, pour hanter les femmes qui coupent leurs cheveux, elles auront les cheveux longs comme une femme. Et différents spectacles hideux qu'ils seront en mesure de voir, Seigneur, dans cet état mental et illusionné dans lequel ils sont. Et ils crieront aux rochers et aux montagnes. Les femmes qui donnent l'affection d'une mère à des chiens et des chats, mais qui n'élèvent pas d'enfants pour t'honorer, celles à qui tu as donné des enfants, qui les ont conçus et qui les laissent sortir dans les rues pour faire ce qu'ils veulent. Il n'est pas étonnant que tu aies dit, Seigneur, quand tu allais à la croix, alors ils commenceront à crier aux rochers et aux montagnes de tomber sur eux. Nous voyons toutes ces autres choses converger vers ce temps-là. Nous voyons l'Écriture confirmée, prouvée. Et Seigneur, tout comme nous voyons cela, nous te voyons de nos propres yeux se manifester. Un jour, il y aura un enlèvement, et nous verrons la manifestation de cette parole.
car le Fils de l'homme viendra dans une nuée de gloire, ses saints anges avec lui, et nous serons enlevés pour aller à sa rencontre dans les airs. Là, ce sera, nous en entendons parler maintenant, mais là, nous le verrons de nos propres yeux. Puissions-nous être trouvés en lui, Seigneur, le seul lieu que tu as donné, et il est le sacrifice. Nous lui apportons ce dont nous avons entendu parler, Jésus-Christ, dans la maison de Dieu, par le baptême du Saint-Esprit, par le nom de Jésus-Christ. Et là, notre sacrifice est accepté, et nous sommes reçus dans la famille, car, étant encore égarés dans le monde, nous étions destinés à être des fils et des filles de Dieu avant la fondation du monde. Nous te remercions pour cela, Père. Oh, comment quelqu'un pourrait-il rejeter quelque chose comme ça alors qu'ils ont trouvé la vérité et que Dieu les a sélectionnés parmi les gens du monde? Des millions ont été perdus le jour où j'ai été sauvé. Oh, agneau mourant, comment pourrais-je jamais te remercier? Comment mon cœur pourrait-il témoigner assez de respect envers toi? Aide-moi, cher Dieu, à vivre fidèlement. Aide mon peuple à vivre fidèlement. Je prie pour eux, Seigneur, chacun d'eux, que tu puisses, Dieu, d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas comment, juste comment te demander, Seigneur. Peut-être que je ne demande même pas de la bonne manière, mais pardonne-moi mon ignorance, Seigneur, et regarde seulement à mon cœur. Je prie qu'aucun d'eux ne soit perdu, aucun d'eux, Père. Je les réclame, chacun d'eux, pour toi, au nom de Jésus-Christ. Amen.
If you love him, you love one another. Shake one another's hand.
Et si vous l'aimez, vous vous aimez les uns les autres. Serrez-vous la main les uns les autres.